السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا. cette soirée du mercredi 19 Rajab 1434 de l'Hégire, correspondant au 29 mai 2013, Inch'Allah Ta'ala. Donc, avec notre livre, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, cours numéro 26, le titre « La vigilance face au péché et l'empressement vers les adorations ». L'hadar min al-ma'asi wal-musara'atu fi ta'at. Ce cours était un peu long, il demande à peu près 2 ou 3 séances, mais j'ai préféré faire mon possible pour le faire en une seule séance, et j'ai supprimé des choses que je ne vais pas dire. Non. Donc j'ai choisi certaines choses. Je dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Qasim rapporte, on interrogea Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu à propos d'un homme qui fait des efforts dans l'adoration mais commet des péchés, et un autre qui ne fait pas d'efforts dans l'adoration mais ne commet pas de péché. Et il répondit, je préfère la préservation vis-à-vis des péchés. Je préfère la préservation des péchés. Donc, on interrogea Ibn Abbas à propos d'un homme qui faisait des efforts dans l'adoration, mais commettait des péchés. Et un autre qui ne faisait pas d'efforts dans l'adoration, mais par contre ne commettait pas de péché. Qui c'est le meilleur? Il a dit, je préfère celui qui ne fait pas de péché. Même s'il ne fait pas beaucoup d'adoration, il ne fait pas beaucoup d'efforts dans les adorations, mais alhamdoulillah, il n'a pas désobéi à son Seigneur. Il fait son possible pour ne pas désobéir à son Seigneur. Naam. Taïb. Dans le même sens à peu près, dans le même sens aussi, naam, on va lire un autre. Taïb. Dans le même sens, celui-là. Ibn Maymoun a dit, mon père ne jeûnait pas et ne priait pas beaucoup, mais il détestait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon père ne jeûnait pas et ne priait pas beaucoup, mais il détestait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le même sens que le premier. Pas beaucoup de jeûne, pas beaucoup de prière. On veut dire par la surérogatoire, bien sûr. Mais il détestait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans le même sens, Omar ibn Abdelaziz radiyallahu ta'ala a dit, la crainte d'Allah ne consiste pas en la prière de la nuit, le jeûne ou bien l'alliance des deux. Mais la crainte d'Allah consiste à accomplir ce qu'Allah a imposé et délaisser ce qu'il a interdit. Et maintenant, si des œuvres s'ajoutent à cela, c'est un bien qui s'ajoute à un bien. La crainte d'Allah ne consiste pas en la prière de la nuit, le jeûne ou bien les deux. Mais surtout, elle consiste à accomplir ce qu'Allah a ordonné de faire et de délaisser ce qu'il a interdit. De délaisser ce qu'il a interdit. Non. Ici maintenant, des œuvres s'ajoutent à cela. Alhamdoulilah, c'est un bien qui s'ajoute à un bien. Vous avez remarqué peut-être que il y a beaucoup de gens qui font le bien, qui font le bien. Mais rares sont ceux qui, en faisant le bien, ne font pas de péché. Ils trouvent des jeunes, des femmes, des vieux, ceci, cela. Ils jeûnent, machallah, jeudi, lundi. Ils donnent de l'aumône. Mais parallèlement, ils font quoi? ils font des péchés. Ils ne peuvent pas s'arrêter de ne pas faire des péchés, par exemple. De ne pas voir le haram, ne pas fumer, ne pas cela. Naam. Mais ce qui serait mieux, c'est quoi? C'est que même si je fais pas beaucoup d'efforts dans les surérogatoires, mais, alhamdoulillah, je ne fais pas de péché. Naam, j'essaie au maximum de m'éloigner des péchés. Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit, Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit, l'homme est privé de la prière de nuit et du jeûne dans la journée en raison d'un mensonge qu'il prononce. Allahu Akbar. L'homme, Anas, le sahabi, qui, à partir de 10 ans, a été resté avec le prophète Hassan jusqu'à sa mort. Il a dit, l'homme est privé de la prière de la nuit et du jeûne dans la journée à cause d'un mensonge qu'il a prononcé. Naam. Une scène, des fois la personne fait un péché pendant la journée par exemple, et voilà que la nuit elle ne peut pas prier alors qu'elle avait l'habitude de prier la nuit. Mais cette nuit-là elle tombe KO, elle ne peut pas se réveiller, subhanallah. Et non plus, ni ne peut jeûner le lendemain si elle avait l'habitude de jeûner. Tout cela, c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du péché qu'il a fait, du mensonge qu'il avait fait. Naam. Aussi dans le même sens, il y a autre chose ici, dans le même sens, une seconde, si je le trouve, naam. Dans le même sens de cela, que les péchés nous enlèvent beaucoup d'adoration, ou là sont les causes. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimallah, a dit, si tu ne peux prier la nuit et jeûner le jour, sache que tu es privé de bien et que ce sont tes fautes qui t'ont enchaîné. Allahu Akbar. Si tu ne peux prier la nuit et jeûner le jour, sache que tu es privé de Allah qui t'a privé. Pourquoi? Est-ce qu'il t'a fait du dhulm? Il t'a lésé? Non. Ce sont tes fautes qui t'ont enchaîné. Là, maintenant, tu es lié, enchaîné avec tes fautes. Si tu veux revenir à la prière de la nuit et le jeûne du jour, alors fais-le repentir. Fais-le repentir pour délier tes chaînes. Les chaînes qui maintenant t'ont enchaîné. Naam. Ibn Abbas a dit, rahimahullah, il a dit, radiyallahu ta'ala anhu, pas de péché majeur lorsqu'on s'en repent. Et pas de péché mineur lorsque on s'obstine. Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, a dit, pas de péché majeur lorsque on s'en repent. Et pas de péché mineur lorsque on s'obstine. Naam. Vous savez qu'en islam, naam, il n'y a que les anges qui ne font pas les péchés. Mais que, après le péché, même s'il est majeur, si on fait le repentir, comme a dit le prophète, il a dit, le repentir détruit. Il a dit, démolit ce qu'il a précédé. Quand quelqu'un fait le repentir, il a démoli tous les péchés qu'il a faits. À condition qu'il fasse le repentir vivant, bien sûr. Maintenant, s'il meurt, c'est trop tard pour lui. Mais tant qu'il est vivant et il revient vers son Seigneur, fait le repentir, il commence quoi? Une nouvelle page. Et la différence, l'une des différences entre nous et les chrétiens, c'est que les chrétiens, pour faire le repentir, ils ont besoin d'un intermédiaire. Il faut qu'il aille chez le curé ou je ne sais pas qui, le pape ou là, et c'est lui qui demande pardon à Allah Zama, à Allah Ta'ala, pour que Dieu subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Alors qu'en islam, il n'y a pas cela. Directement, la personne lève les mains vers le ciel et demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon et elle peut fortifier son repentir en faisant du bien, par exemple, en faisant l'aumône, en priant, en faisant des choses qui ne sont pas obligatoires. Non. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, un homme peut accomplir une bonne action, non, se confier à cela et commettre des actes qui viendront la consumer, jusqu'à arriver devant Allah et que cette bonne action l'ait mis dans une mauvaise situation. Alors qu'un homme commettre une mauvaise action et s'en effrayer jusqu'à parvenir devant Allah en toute sécurité. Masha'Allah, regardez ce qu'il a dit. Un poète, un philosophe ne peut jamais dire cela. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu a dit: un homme peut accomplir une bonne action, se confier à cela et commettre des actes qui viendront la consumer jusqu'à arriver devant son Seigneur dans une mauvaise situation. Et un homme, par contre, peut commettre une mauvaise action et s'en effrayer jusqu'à parvenir devant Allah en toute sécurité. C'est pour cela que les savants, autrefois, quand ils discutaient comme ça avec leurs élèves, ils donnaient comme une devinette, comme une devinette. Ils disaient: quelle est la bonne œuvre qui fait rentrer en enfer? Et quel est le péché qui fait rentrer au paradis? Alors que nous, on sait que c'est le contraire. La bonne œuvre mène au paradis, le péché mène en enfer. Mais eux, ils posent cette question, qui est tout à fait le contraire. Quelle est la bonne œuvre qui peut te faire rentrer en enfer et le péché qui peut te faire rentrer au paradis? Ça, c'est une devinette qu'on doit poser aux gens. Réponse? La réponse? La bonne œuvre qui peut nous faire rentrer en enfer, c'est quand une personne, la bonne œuvre qui peut nous faire rentrer en enfer, c'est laquelle? C'est quand une personne fait une bonne œuvre, ensuite, elle a ce qu'on appelle l'autosatisfaction. L'autosatisfaction et même le rappel, elle commence à dire aux gens: moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est comme une personne par exemple qui va aider à construire une mosquée. C'est une très bonne œuvre s'il l'a faite pour son Seigneur. Mais maintenant, s'il commence à dire aux gens: c'est moi qui ai construit la mosquée, si c'était pas moi, vous n'auriez pas prié, si c'était pas moi qui vous avais aidé, ceci, cela, ça va le mener où? Ça va le mener à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il fait le rappel aux gens. Il dit: c'est moi, donc toi tu n'as pas fait ça pour ton Seigneur. Si tu l'avais fait pour ton Seigneur, tu l'aurais caché au maximum. C'est entre toi et lui. Donc maintenant, cette bonne œuvre va quoi? Va t'emmener en enfer si jamais tu ne fais pas le repentir. Et le contraire, le péché qui fait rentrer en enfer, c'est quand une personne se trompe. Et par exemple, elle a bu de l'alcool ou elle a fait quelque chose d'illicite. Elle n'a cessé de regretter, de se repentir, de pleurer, d'avoir le cœur chagriné, d'avoir des remords. Non, il demandait pardon jusqu'à ce que, si elle meurt dans cet état, elle ira directement au paradis. C'est pour cela que les savants ont dit que Adam, notre père Adam, la paix soit sur lui, ils ont dit: après avoir mangé de l'arbre et fait le repentir, il est devenu mieux, en ce qui concerne sa relation, mieux qu'avant une personne avant le péché. Il se peut que, yani, elle ait l'autosatisfaction et qu'elle dise: je suis une vraie musulmane, je suis ceci. Non. Et elle commence à lui jouer des tours. Mais après le péché, tu trouves la personne toujours avec le cœur brisé, toujours qui a peur, qui ne sait pas est-ce que Allah est en colère contre elle ou pas, et est-ce qu'il lui a pardonné ou pas. Et ceci et cela, alors elle fait des efforts pour se corriger. Elle fait des efforts pour se corriger. Abdurrahman ibn Abi Layla rapporte: Abu Darda écrivit au responsable de l'Égypte. Il lui a écrit: si le serviteur obéit à Allah, Allah l'aime et le fait aimer des gens. Et si par contre il désobéit à Allah, alors Allah le déteste et le fait détester des gens. Abu Abdurrahman ibn Abi Layla rapporte: Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon, a écrit au responsable de l'Égypte pour lui dire: si le serviteur obéit à Allah, alors Allah l'aime et le fait aimer des gens. Par contre, s'il désobéit à Allah, Allah le déteste et le fait détester des gens. Ensuite, nous, on sait qu'il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam: inna Allaha ida ahabba abdan, da'a Jibril, faqal: inni uhibbu fulanan, fa'ahibba. Qala fayuhibbuhu Jibril. Thumma yunadi fi s-sama, fayaqul: inna Allaha yuhibbu fulanan, fa'ahibbuh. Fayuhibbuhu ahlu s-sama. قال ثم يوضع له القابول في الأرض وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلان وأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض. حديث أوتنتيك، c'est-à-dire d'après Abu Huraira qu'Allah ta'ala l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, lorsqu'Allah aime un serviteur, appelle Jibril, Gabriel, il lui dit, certes, j'aime un tel, donc aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis il appelle dans les cieux, Jibril. Il dit, certes, Allah aime un tel, donc aimez-le. Et les gens des cieux vont l'aimer. Alors il lui est mis l'acceptation sur la terre. Et lorsque Allah Ta'ala déteste un serviteur, il appelle Jibril et lui dit, certes, je déteste un, donc déteste-le. Alors Jibril, qui est le chef, bien sûr, des anges, va le détester. Puis il appelle dans les cieux, certes, Allah déteste un tel, donc détestez-le. Alors les gens des cieux, les anges, le détestent. Alors il lui est mis la haine sur la terre. Rapporté par Bukhari et Muslim dans son Sahih, afin par Muslim dans son Sahih numéro 2637. Vous avez remarqué que Naam, l'amour des gens envers toi, si tu es vraiment quelqu'un qui applique, ça vient pas de toi. C'est Allah Ta'ala qui croit. Regardez la dernière phrase. Alors, il lui est mis la haine sur terre. Bon, ça c'est pour la haine. Un peu plus haut, il lui est mis l'amour sur terre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui demande à Jibril de faire descendre l'amour, yani ton amour dans les cœurs des gens. Et les gens vont t'aimer, subhanallah l'adhim, sans qu'ils te connaissent peut-être. Et le contraire, quand Allah ta'ala aime quelqu'un, il va faire descendre la haine sur terre, dans les cœurs des gens pour le détester. Et tu vas trouver que tu détestes des gens que tu ne connais même pas. Que tu ne connais même pas, subhanallah là, pourquoi? Parce qu'ils sont détestés par Allah. Et Allah a fait descendre leur haine sur terre. Amr ibn Maymoun, rahimahullah, a dit, mon père ne jeûnait et ne priait pas beaucoup, mais il détestait désobéir à Allah. Naam. Il a dit, mon père ne jeûnait. Bon, on l'a lu ça. On l'a lu. Mu'tamir ibn Suleyman rapporte de son père, il a dit, l'homme commet un péché et on porte ensuite l'humiliation. Naam. L'homme commet un péché et on porte ensuite l'humiliation. D'après Mu'tamir ibn Suleyman, qui rapporte de son père, qu'il a dit, l'homme commet un péché et on porte ensuite l'humiliation. Regardez ce qui suit. Le prophète m'a dit dans un hadith authentique, je prends seulement ce qui a témoin avec le cours, il a dit, وَجُعِلَ الزِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَلَفَ أَمْرِ. Authentique, sahih. Regardez, تَخْرِج مُشْكِلَةِ الْفَقْرِ du Cheikh Al-Albani, tome 1, page 25. En français, c'est pas celui-là, j'efface. B7, B8, c'est pas celui-là. Al-Muhim, peut-être je l'ai pas en arabe, peut-être je l'ai pas en arabe. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attendez, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'humiliation, naam, l'humiliation et l'avilissement dans celui qui contredit ce que j'ai dit. Dans celui qui contredit ce que je dis. On va voir si je le trouve ici, une seconde, si je l'ai en français. C'est pas celui-là. Toute sécurité. Une seconde. Je vais détester des gens. Pas celui-là. Donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que yani Allah Ta'ala a mis l'avilissement et aussi l'humiliation dans à toute personne qui contredit ce que je dis. C'est pour ça que toute personne qui contredit ce qu'a dit le prophète et transgresse ses préceptes, toujours tu la trouves avilie. Et toujours tu la trouves humiliée. Toujours tu la trouves avilie. Toujours tu la trouves humiliée. Naam. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, wa rafa'na laka dhikrak. Attendez, je vais voir si je peux trouver ce verset. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Naam, voilà le verset. Regardez le verset. Et lorsqu'il a dit wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak, c'est-à-dire sharh 4. Sharh 4. Je cherche soit sharh 4. 4, si je trouve sharh 4. Sharh 4. Bon. Al-Ma'un, Quraysh, Tin, Shams, Dalil, Rachia, sort sharh. Sharh. علاق القدر جي با تروفي واش تروف الشرح سبحان الله يعني بروج انشقاق العالم فوالا الشرح 4 نعم الشرح 4 سي بور توا تا رونومي تا رونومي regardez quand j'ai dit tout à l'heure que le prophète Islam a dit que quiconque me contredit, il aura l'avilissement et l'humiliation. Par contre, Allah Ta'ala a dit, et j'ai exalté pour toi ta renommée. Ibn Taymiyyah a dit, plus tu suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus toi aussi ta renommée sera exaltée. Plus tu suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala a exalté sa renommée, puis toi aussi, na'am, tu monteras en statut et ta renommée, bi-idhnillah, sera exaucée. Naam. Tayyib. Ibn, rapport de son père, l'homme commet un péché emporte ensuite l'humiliation. L'humiliation. Naam. Abdullah, parce qu'Allah Ta'ala l'a gré. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a dit, la bonne action a une lueur qui se reflète sur le visage du croyant et une lumière qui règne dans son cœur. Le bien que le croyant fait lui accorde la fortune, la force et l'amour des autres. Quant au mal, quand quelqu'un fait des péchés, ça teint le visage de celui qui le fait d'une teinte noire. Ça obscurcit son cœur, ça affaiblit son corps. Et ça appauvrit sa fortune et souffle la haine des autres, des gens. Allahu Akbar. Obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ça donne une lueur qui se reflète sur le visage du croyant. Et une lumière qui règne dans son cœur. Seul celui qui a obéi peut ressentir yani, cette lumière qu'il a dans le cœur. Et le bien que le croyant fait lui accorde la fortune. Allah Ta'ala lui donne le risque, la force et l'amour des autres. Quant au mal, quand quelqu'un fait du mal et un péché, ça teint le visage de celui qui le fait d'une teinte noire. Naam. Regardez les criminels. Les criminels. Jamais ça vous est arrivé dans votre vie que vous avez vu un criminel qui a par exemple un visage resplendissant avec les joues roses, mashallah, avec un visage illuminé. Ça existe ça? Jamais de la vie. Toujours quoi? Toujours un visage, un visage noir, avec une teinte noire. Sans parler du cœur, un cœur obscurci. Ensuite, ça affaiblit son corps, sa fortune, et ça donne la haine des autres, la haine des autres. Naam. Voilà le hadith que je cherchais tout à l'heure. L'humiliation et l'avilissement atteindront quiconque contredira mon ordre. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Il a dit l'humiliation et l'avilissement atteindront quiconque contredira mon ordre. Allahu Akbar. Quiconque contredit ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il aura quoi? Dans cette dunya, il sera humilié et avili. Il sera tout petit, tout petit. Même s'il est le plus riche du monde. Il sera humilié, avilé. Là. Abu al-Hassan, rahimahullah, avant lui, Al-Awam ibn Hawshab, rahimahullah, dit, il a dit, on a dit, se réjouir d'un péché est pire que de le commettre. Al-Awam ibn Hawshab, rahimahullah, a dit, il a dit, on a dit, c'est-à-dire les salafs ont dit, se réjouir d'un péché est pire que de le commettre. Pourquoi c'est pire? Car on peut commettre un péché sans s'en réjouir. On peut commettre un péché tout en ayant le cœur serré, tout en regrettant. Même dès qu'on finit, on regrette. À la même seconde, on commence à regretter. Mais maintenant, c'est le contraire. Il a dit ici, je me réjouis d'un péché. Se réjouir d'un péché, même si je ne l'ai pas fait, c'est plus grave que d'en faire en le regrettant. En le regrettant. Non. Donc, il ne faut pas dire que. Mais c'est au niveau du cœur seulement. J'en ai pas parlé comme dans le hadith qui dit que tout ce qui se passe dans le cœur, yani, on n'a pas de péché. Sauf si on parle ou on fait. On dit, d'accord, ça ne se contredit pas, mais ça ne se contredit pas avec ce hadith. Pourquoi? Car le hadith a dit, tout ce qu'on fait dans le cœur, ce qu'on se dit, on n'a pas de péché. Mais à condition qu'on ne dise pas ou qu'on ne fasse pas. Mais toi ici, tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose avec ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es réjoui. Tu t'es réjoui. Non. Regardez le verset qui va venir, si je le trouve, une seconde. Pour prouver que, avec le cœur, on peut avoir des péchés. Le verset. Regarde, une seconde. Tantashia. Tantashia. Al-Fahisha. Al-Fahisha. Regardez ce verset, Naam. Regardez ce verset. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب. النور 19. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants, c'est un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, vous ne savez pas. Châtiment douloureux pour avoir fait quoi? Seulement pour avoir aimé que la turpitude, la zina, etc., se propage parmi les croyants. Ils n'ont rien fait, hein? Ils ont fait quelque chose avec le cœur. C'est quoi? Ils ont aimé. Si tu aimes qu'on dise Allah subhanahu wa ta'ala, tu as fait des péchés. Si tu aimes que un péché se propage, que l'alcool se propage, la zina se propage, tu as fait des péchés. Pourquoi? Il faut détester ces choses. Il faut détester ces choses. Donc ceux qui aiment que la fahisha, la turpitude, se propage parmi les croyants, qu'il va leur arriver un châtiment douloureux, ici comme dans l'au-delà. Deux châtiments, ici et dans l'au-delà. Ici, quelqu'un va dire, dans l'au-delà, d'accord. Mais ici-bas, plusieurs gens aiment que la turpitude se propage et les voient pas châtiés. On va leur dire la réponse, c'est la fin du verset. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait et vous ne savez pas. Toi, tu es avec la personne du matin au soir pour savoir qu'elle n'est pas châtiée. Ensuite, toi, tu sais ce qui se passe dans son cœur. Tu sais quelles sont les épreuves que Allah Ta'ala a données à cette personne. Tu sais quels sont les chagrins que Allah Ta'ala a fait descendre dans le cœur de cette personne. Tu connais les ténèbres et l'obscurité que Allah Ta'ala a fait descendre dans le cœur de cette personne pour dire qu'elle n'a pas un châtiment douloureux. Est-ce qu'il n'y a pas plus douloureux châtiment que de sceller son cœur? Allah Ta'ala peut-être a scellé à cette personne son cœur. Elle va plus connaître la vérité. Elle va suivre seulement quoi? Les passions et les tentations. Pour ça, Allah Ta'ala a dit, Allah sait et vous ne savez pas. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu vois la personne. Tu dis comment celle-là, elle ne cesse de propager les turpitudes et je la vois, mashallah. C'est la riche, la plus belle et la plus aimée de tout le monde. Naam, sa apparence, ce que tu vois toi. Mais Allah Ta'ala sait et toi, tu ne sais pas. Al-Mu'im. Tayyib. Al-A'wazi, rahimallah, a dit, on a dit, fait partie des péchés majeurs que de commettre un péché et de le mésestimer. Et de le mésestimer. On a dit, on a dit, j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, on a dit, fait partie des péchés majeurs que de commettre un péché et de le mésestimer. Naam. Commettre un péché, ensuite de le mésestimer et dire non, ça c'est pas grave, c'est rien. Ah, j'ai pas fait quelque chose de grave. Ça rentre dans les péchés majeurs. Parce qu'en principe, on ne doit pas voir seulement le péché, mais on doit voir à qui on a désobéi. Quand tu fais un petit péché ou un grand, tu as toujours, et dans tous les cas, désobéi à Allah. Que ce soit par un petit péché ou par un grand. Toi, c'est pas, ah, il faut dire, Alhamdoulilah, j'ai fait un petit. Mais il faut dire, malheur à moi, j'ai désobéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu le mésestimes, tu dis non, ça c'est rien, c'est un petit péché, ça devient grand. Mais si par contre tu fais un grand péché et tu as peur tout le temps et tu regrettes, etc., ça devient petit, bi'idhnillahi ta'ala, et ça s'efface même. Ça s'efface même, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Ibn al-Mubarak, rahimahullah, rapporte, on demanda à Wuhayb ibn al-Ward, lui qui désobéit à Allah, peut-il goûter à la sœur de l'adoration? Il répondit non. Pas même celui qui pense uniquement à la désobéissance. Ibn al-Mubarak rapporte. On demanda à Wuhayb ibn al-Ward, dis-nous, celui qui désobéit à Allah, peut-il goûter à la douceur de l'adoration? Il répondit non. Même pas celui qui pense uniquement à la désobéissance. C'est pas celui qui désobéit qui ne va pas goûter à la douceur, mais même celui qui pense à la désobéissance avec son cœur, il sera privé de goûter à la douceur de l'adoration. L'adoration a une douceur, a un goût, une saveur. C'est comme on mangeait des fruits où on mange des choses et en est vraiment délicieuses. La même chose, c'est l'effet de l'adoration dans le cœur du croyant. Donc, quand il fait une adoration sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, il ressent une douceur dans son cœur. C'est pour cela que le prophète alayhi salam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, que vous connaissez inshallah tous, il a dit, Dhaqa ta'm al-iman. Dhaqa ta'm al-iman a goûté la saveur de la foi. Man radiya billahi rabban bil islami dinan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyan. Agréer Allah et l'islam et le prophète alayhi salam comme prophète. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit goûter à la saveur de la foi. La foi, c'est comme le manger. Ça a une saveur. C'est quelque chose de délicieux. Non. Ici, on a demandé à Ibn Mubarak, est-ce que celui qui désobéit à Allah peut goûter à cette douceur? Il a dit non, même pas celui qui pense à la désobéissance. Si jamais tu es assez tout seul et tu commences à penser à des choses, comment faire haram, comment les gens font haram, ceci, cela, et imaginer des choses de haram, déjà, tu ne sentiras jamais la douceur de l'adoration. Tu ne sentiras jamais la douceur de l'adoration. Abul Hassan, rahimahullah, a dit, Abul Hassan, rahimahullah, a dit, le péché commis après un péché, c'est le châtiment du péché. Et la bonne action accomplie après une bonne action, c'est la récompense de la bonne action. Allahu Akbar. Abul Hassan a dit, le péché commis après le péché, c'est en fait le châtiment du premier péché. Et la bonne action accomplie après la bonne action, c'est en fait la récompense de la bonne action. Quand une personne fait un péché, si elle ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala et demande pardon, elle sera punie par quoi? Par, yani, elle va refaire un autre péché. Car maintenant qu'elle a ouvert la porte du péché, ça lui devient facile. C'est pour ça que vous trouvez une personne que, yani, qui, pour elle, tu lui dis par exemple tuer quelqu'un. Tu dis tuer quelqu'un, un meurtre. A'oudhou billah. C'est vraiment grave, c'est très grave. Mais si jamais il tue une fois dans sa vie, classe, il peut en tuer 100 et 200. Ça lui devient comme rien. Tu dis à quelqu'un, boire de l'alcool, boire de l'alcool. A'oudou billah, a'oudou billah. Mais si jamais, a'oudou billah, Allah le contrôle, il boit un verre, nam, ça lui dira rien d'en boire ensuite 100 verres. Quelle est la différence? Nam, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset. Une seconde, inshallah ta'ala, si je le trouve, si je le trouve. كأنما قتل الناس جميعا قتل الناس attendez inshallah si je trouve ce verset Allah Ta'ala dit donc من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما جميعا regarde ce verset subhanallah العظيم ce verset c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Regardez, une personne, quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Pourquoi? Car en tuant une personne, maintenant tu peux tuer tout le monde. Tu n'auras plus peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as cassé le mur. Tu as cassé le mur. Allez, fais tout ce que tu veux. Quelle est la différence entre tuer un ou deux? Deux ou quatre? Là, tu tues tout le monde. Non. Je disais. Non. Donc, je disais que le péché, on était où? Bon accent. Je disais que le péché commis après le péché, c'est le châtiment du péché. Et la bonne action, Allah t'a récompensé en t'aidant à faire une autre action. Quand tu fais le péché, tu ne fais pas le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala s'éloigne de toi et va te faire tomber dans un autre péché. Tu ne veux pas faire le repentir. Et comme ça, péché sur péché, péché sur péché, péché sur péché. Mais maintenant, quand tu fais le repentir et tu commences à faire de bonnes œuvres, il faut que tu fais une bonne œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser en t'ouvrant une autre porte pour faire une bonne œuvre. Regardez, des fois, par exemple, on est paresseux, il n'y a rien, je veux pas lire le Coran, je veux pas prier, c'est la paresse, c'est que là, tout ça, déjà, c'est péché. Ensuite, dès que, je dis, jusqu'à quand je vais rester comme ça, il faut que je me ressaisisse, je demande à Allah Ta'ala de m'aider, et peut-être, hein, par exemple, je vais faire les ablutions, je vais faire deux rak'at pour Allah. À peine je fais, par exemple, ces deux rak'at, je sens quoi? Je sens un grand apaisement, une rahma qui est descendue dans mon cœur. Et maintenant, après avoir fait ces deux rak'at, j'aime par exemple ouvrir le Coran et lire. Après le Coran, je dis, allez, maintenant, par exemple, allez voir tante pour faire la piété familiale, par exemple. Subhanallah al-Adim. Il n'y avait rien tout à l'heure. Mais dès que j'ai fait deux rak'at, il y a eu la lecture du Coran, il y a eu la visite familiale, il y a eu en cours de chemin, j'ai donné à quelqu'un un euro ou n'importe quoi, subhanallah l'adim. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala récompense qui fait une bonne action par d'autres actions bi'idnillah ta'ala. Par d'autres actions bi'idnillah ta'ala. Salama ibn Dinar, rahimahullah, a dit, si tu vois qu'Allah ta'ala continue, c'est très important ce que je dis. Salama ibn Dinar, rahimahullah, a dit, si tu vois qu'Allah ta'ala continue à t'accorder bienfait alors que tu lui désobéis, prends garde. Naam. Tayyib. Si tu. Je répète donc, qu'a dit Salama ibn Dinar, il a dit. Si tu vois Allah Ta'ala qu'il continue à t'accorder des bienfaits alors que tu lui désobéis, prends garde. Pourquoi? Tu dois prendre garde parce que normalement quand quelqu'un désobéit à Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui enlève les bienfaits s'il lui en a donné. C'est bon, il lui accorde des bienfaits. Donc c'est grave car normalement il lui donne quoi? Il lui donne des épreuves, un châtiment et non pas des bienfaits. Pour lui avoir désobéi. Donc ça peut rentrer dans quoi? Car vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala ruse aussi. Ruse au ruseur. Hein? Le ruseur, il les ruse lui aussi. Hein? Pour les berger. Il est trompé. Ça, la personne va dire quoi? Va dire, mais si Allah Ta'ala, yani, je faisais des choses mauvaises, il ne m'aurait pas donné ses bienfaits. Donc, tant que j'ai des bienfaits, ça veut dire que je ne fais rien de grave. Et ça, c'est une ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, qui est très grave. Au contraire, si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, qu'est-ce qu'il te fait? Il te donne vite, yani, quelque chose qui te rappelle. Quelque chose qui te rappelle une maladie ou n'importe quoi pour te rappeler. Mais maintenant, s'il te laisse aller comme ça, il te laisse aller, nam, ça veut dire que c'est. Ça veut dire. Nam. Aussi dans le même sens, aussi dans le même sens. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate Ali Imran 178, il a dit: Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim. Innama numli lahum yazdadu ithman wa lahum adabun muhin. Wa lahum adabun muhin. Naam. Allah ta'ala a dit que ceux qui n'ont pas cru, les kofars, ne compte pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est ça augmente leur péché. Et il y a pour eux un châtiment avilissant. Donc Allah Ta'ala nous a mis en garde, attention, que ceux qui sont des kofars ne croient pas que si je leur allonge dans leur vie, c'est parce que je veux leur donner, yani, un avantage. Mais, par contre, si je leur accorde un délai dans leur âge, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. C'est pour se remplir de péché. Car si je prends son âme maintenant, il va venir vers moi avec pas beaucoup de péché. Donc attends, je vais lui rallonger dans sa vie pour qu'il se remplisse de péché. Se remplisse de péché. Et yani, il meurt comme ça, a'oudou billah. Il meurt comme ça, a'oudou billah. Non. Aussi. C'est pour ça que aussi que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit dans un verset, il a dit: Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Nous serions là en fil khayrat, billah. Il a dit, pense-t-il, les kofars, pense-t-il, ce que nous leur accordons, pense-t-il que ça soit une avance, nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Il a dit au contraire, mais ils n'en sont pas sûrs. Est-ce que les kofars pensent que maintenant, quand ils mécroient et ils font les péchés, etc. Et ensuite, moi, je leur accorde, nam, des biens, nam, les biens en bien et en beaucoup de biens. Est-ce que ça veut dire que c'est une avance, nam, je leur fais une avance, nam, je m'empresse donc de leur faire une avance sur les biens? Au contraire, c'est pour se remplir de péchés et pour qu'ils croient que ils sont sur leur droit chemin. Ils croient que ils sont sur le droit chemin. Nam. Et ils vont mourir comme ça. Trompés. Bernés et trompés. Nam. Une seconde. Taïeb. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, pour faire un peu plus vite, je vais lire seulement, et à la fin, je vais revenir à l'affichage. Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah, lit, il y a des liens de fraternité avec esclave nommé Selim. Et lorsqu'il devint calife, c'est-à-dire Omar ibn Abdelaziz, il le fit venir un jour et lui dit: Ô Selim, je crains de ne pas parvenir au salut. Si tu crains, c'est bien. Moi, je craignais que tu ne craignes pas. Il lui a dit: Allah Ta'ala a établi un serviteur dans une demeure en laquelle il a commis un seul péché et il sortit de cette demeure. Alors que nous commettons de nombreux péchés et voulons nous établir dans cette demeure. Regardez ce qu'il lui a dit un serviteur. Un serviteur, ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Allah Ta'ala a établi un serviteur. C'est qui ce serviteur? Adam alayhi salam. Allah Ta'ala a établi un serviteur dans le paradis. En laquelle, cette demeure, il a commis un seul péché. Il a mangé d'un arbre. Et il l'a fait sortir de cette demeure. Alors que nous commettons de nombreux péchés et on veut rentrer yani, dans cette demeure. Donc Allah Ta'ala a fait sortir Adam pour avoir fait un seul péché. Et nous, on fait des centaines de péchés et on veut yani, rentrer dans la demeure de laquelle Allah Ta'ala a fait sortir Adam pour un seul péché. C'est vraiment contradictoire, ça. Al-Awazi, rahimahullah, rapporte, il a dit, j'ai entendu Bilal ibn Sa'd dire, ne considère pas la petitesse du péché, mais considère celui auquel tu désobéis. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne considère pas la petitesse du péché, mais plutôt considère celui auquel tu viens de désobéir. Non, pas dire, j'ai fait un petit péché. Pour dire, non, à qui j'ai désobéi? À qui? À mon voisin? Au boulanger? À mes parents? Si c'est à mes parents, ça devient déjà grave. Ou bien au créateur. Créateur, c'est vraiment très grave. Non. Donc, il faut pas dire c'est un petit péché, mais il faut plutôt voir à qui tu as désobéi. El-Mu'tamir rapporte de son père. Il a dit, la bonne action est une lumière dans le cœur et une force dans les œuvres. Alors que le péché, c'est des ténèbres dans le cœur et de la faiblesse dans les œuvres. Naam, c'est vrai. La bonne action est une lumière dans le cœur et une force dans les œuvres, mashallah. Alors que le péché, c'est des ténèbres dans le cœur et une faiblesse dans les œuvres. Le péché, c'est quoi? C'est des ténèbres dans le cœur. Il n'y a jamais quelqu'un qui fait des péchés qui a un cœur Masha'Allah, joyeux et apaisé. Si vous voyez tous les gens, tous ceux, les kofaris, les musulmans qui font des péchés, non, et vous les voyez rire et heureux, tout ça, c'est pas vrai. C'est juste à l'instant où il boit, où il fait ceci, il fait cela, il est heureux, là, c'est tout. Mais juste après, ces choses terminées, c'est le plus malheureux. Non, pourquoi? Il a des ténèbres dans le cœur. Il a des ténèbres dans le cœur. Et nous tous et vous tous, qui sûrement vous êtes passés par yani, le mauvais chemin avant d'être sur le vrai chemin. Sûrement vous vous rappelez que yani, avant que la personne n'ait hier, avant que la personne n'ait commencé à appliquer, donc elle passait des journées avec un cœur noir. Peur noire, non. Elle sent que vraiment elle ne sait pas pourquoi elle vit. Elle ne sait pas pourquoi elle goûtait, chagrinée, cœur serré, cœur gros. Malgré que peut-être elle avait tout, elle faisait tout. Mais elle sentait que c'était pas le bonheur. Surtout maintenant, après avoir connu c'est quoi le bonheur. Maintenant, elle sait que vraiment elle était dans les ténèbres. Vraiment elle était, et on était vraiment. Et on est dans un gouffre, dans un puits. Et on ne savait pas. On croyait qu'on était heureux. On croyait que c'était ça la vie, que c'était la belle vie. Naam. Abu Abdillah, Muhammad ibn Ibrahim ibn Hams, rapporte de son père. Il a dit, si tu n'obéis pas à ton Seigneur, alors ne consomme pas sa subsistance. Naam. Si tu dis, moi, je ne veux pas obéir à mon Seigneur. Alors pourquoi tu consommes sans risque? Pourquoi tu manges sans pain? Pourquoi tu le pain il vient de quoi? Du blé, de la farine. Vous savez, le blé il vient de qui? C'est quelqu'un qui a fabriqué le blé ou bien il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Et le blé, s'il était fabriqué par quelqu'un par exemple, non. Est-ce qu'il ne faut pas le planter? Et si on le plante, il faut pas jeter de l'eau, l'arroser. Qui te donne de l'eau? Si Allah Ta'ala ne fait pas descendre du ciel. Ensuite, tu l'arroses. Naam. Quelle est la preuve qu'il va ça va réussir et qu'il va yani, qu'il va pousser. Si c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait pousser. El Mohim, si tu n'obéis pas à ton Seigneur, alors ne mange pas sa subsistance. Si tu ne respectes pas ses interdits, alors sors de son royaume. Essaie de ne pas être sur terre si tu peux. Ni sur la lune, tu vas dire donc je vais sur la lune. Ni sur la lune c'est son royaume aussi. Tout l'univers lui appartient. Essaie de sortir de l'univers. Essaie de sortir de l'univers et va vers un autre Dieu. Un autre Dieu qui te permettrait de ne pas l'adorer. Il a dit, si tu n'agrées pas ces acteurs, cherche un autre Seigneur. Et si tu lui désobéis, rends-toi en un lieu on ne voit pas. Si tu lui désobéis, alors rends-toi en un lieu où il ne puisse pas te voir. Et c'est impossible. Souleyman Taimi rahimahullah rapporte, il a dit, nous n'avons pas été trouvés Hamad ibn Salama rahimahullah à un moment où on adore Allah azzawajal sans le trouver dans l'adoration. S'il s'agissait d'un moment de prière, nous le trouvions en train de prier. S'il s'agissait d'un moment de prière, nous le trouvions en prière. Et s'il ne s'agissait pas d'un temps de prière, nous le trouvions accomplir ses ablutions. Visiter un malade, participer à des funérailles ou assis dans la mosquée. C'est ainsi qu'il était tout le temps. Nous considérions qu'il ne savait pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous considérions qu'il ne savait pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Aoun ibn Abdullah, rahimahullah, a dit, le bien d'Allah azzawajal est nombreux, mais seuls peu de gens le voient. Allah ta'ala l'expose aux gens, mais ne le voit, c'est-à-dire le bien, ne le voit pas celui qui ne regarde pas en sa direction. Naam. Et ne voyez-vous pas la profusion d'étoiles dans le ciel? Les savants savent se guider à travers elles. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné beaucoup de ni'ma, mais pas tout le monde voit ces ni'ma. Pour voir ces ni'ma et les sentir, il faudrait d'abord voir avec le cœur, pas avec les yeux. Cœur scellé, il peut pas. Et quelqu'un qui a un cœur illuminé, il va te dire, je vis dans de grandes ni'ma. Allah a beaucoup de ni'ma. Il regarde à droite, à gauche. Il ne voit que des ni'ma. Lui-même, il dit, je suis dans une grande ni'ma parce que d'abord je suis vivant. Si j'avais voulu, je serais mort. Pourquoi je suis vivant? Pourquoi beaucoup de gens que je connais sont morts? Pourquoi eux ils sont morts et moi je suis vivant? J'ai cette chance de me rattraper. Les autres ils l'ont pas eu. Ils sont morts. Il y en a qui sont morts dans des bars. Il y en a qui sont morts dans des accidents, dans ceci, dans cela. Et moi je suis toujours vivant et je peux maintenant aller prier, je peux lire, je peux faire ceci, cela. Donc j'ai un grand avantage. Un grand avantage. Donc ça, c'est l'un des plus grands bienfaits. Ensuite, le deuxième grand bienfait, deuxième grand bienfait d'être musulman. Le deuxième grand fait d'être musulman. J'aurais pu ne pas être musulman. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Non. Pourquoi Allah Ta'ala dit moi spécial pour faire de moi un musulman? Donc ça, c'est une grande ni'ma. Donc, il a dit ici, c'est comme les étoiles. Les étoiles dans le ciel, non, c'est pas tout le monde qui peut les utiliser. Pour voyager avec les étoiles, il faut être quoi? Pour être un savant dans, disons, dans l'astrologie, ou alors un savant dans la science aussi, dans la science religieuse. Comme les savants autrefois savaient comment se diriger avec les étoiles, avec les étoiles. On demanda à Wahb ibn Munabbih rahimahullah. On demanda à Wahb ibn Munabbih rahimahullah. On lui demanda, on lui dit, la clé du paradis n'est-elle pas, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah? Il répondit, certes, mais toute clé possède des dons Des dents. Celui qui vient à la porte avec les dents, avec une clé qui a des dents qui conviennent, on lui ouvre la porte. Et celui qui vient à la porte avec une clé qui n'a pas de dents, on va pas lui ouvrir. Subhanallah al-Azim. Naam. Donc, la clé du paradis, c'est quoi? C'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mais toute clé possède des dents. Si maintenant tu dis La ilaha Muhammadur Rasulullah, ensuite tu appliques, tu as une clé qui a des dents. Demain, on va t'ouvrir la porte. Et si maintenant tu dis La ilaha Muhammadur Rasulullah et tu n'appliques rien, tu pries, tu insultes le Seigneur et tu fais tout ce qui est interdit et tu délaisses tout ce qui est obligatoire, dans ce cas, quand tu vas mourir, tu vas aller à la porte avec une clé qui n'a pas de dents. Et la clé qui n'a pas de dents, quand vous la faites rentrer dans la serrure, qu'est-ce que ça donne? Ça tourne. Tu fais tourner à droite, à gauche, elle tourne dans le vide. Pourquoi? Il n'y a pas les dents qui coincent, qui, elles, les dents, ce sont elles qui ouvrent la porte. Ce sont elles qui ouvrent la porte. Naam. L'épouse de Hassan, Ibn Abi Sinan rapporte. Elle parle de son mari. Elle a dit, il venait avec moi au lit, puis me trompait à la manière de l'enfant qui trompe sa mère. Lorsqu'il savait que je dormais, il se dérobait, sortait, allait dans une autre chambre et priait. Alors je lui dis, Oh Abdallah, combien de temps vas-tu te faire endurer cela? Il me répondit, Tais-toi, malheur à toi. Il se peut que je fasse un somme, hein, que je dorme 5 minutes, duquel je ne me lève plus jamais. Non, il lui dit, arrête de me dire cela. Il suffit que je m'endorme une fois et que je ne me réveille plus jamais. Et beaucoup de gens, certes, se sont endormis pour ne plus jamais se réveiller. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens, Naam, se sont endormis. Moi, personnellement, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Plusieurs fois, j'entends ma femme, j'entends des cousins dire que il est allé dormir, on est allé le réveiller, il ne s'est pas réveillé. Il est parti pour l'au-delà, pour l'au-delà. Naam. Naam. Donc, on va terminer avec deux, trois choses. Chabi rapporte. Naam. Il a dit, Mesrouk, je vous ai dit Mesrouk, c'est une personne que on a volée quand elle était jeune, cette personne. Mesrouk, rahimallah, s'évanouit un jour très chaud, alors qu'il jeûnait. Il s'est évanoui. Sa fille lui a dit, rends le jeûne, rends le jeûne. Il a dit, que me veux-tu? Que me veux-tu? Elle a dit, de la bienveillance. Il a dit, oh ma fille, je recherche la bienveillance pour ma personne en un jour dont la durée sera de 50 000 ans. Vous savez que le jour de la résurrection, c'est combien d'années? 50 000 ans. Il a dit, moi, non, au contraire, je recherche la bienveillance pour ce jour-là. C'est pour cela que ça me fait pas mal le fait de jeûner quand il fait chaud, même si je m'évanouis. Même si je m'évanouis. Il a dit, je sais ce que je suis en train de faire, ma petite fille. Taïf. On va terminer, inshallah ta'ala, avec deux choses. On va terminer, inshallah ta'ala, avec deux choses. La première. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimallah, a dit, plus je suis pauvre, plus je suis vertueux. Je désobéis à Allah et j'en constate les conséquences sur ma monture et mon épouse. Fudayl ibn Ayyad, rahimallah, a dit, plus je suis pauvre, plus je suis vertueux. Il a dit, je désobéis à Allah et j'en constate les conséquences sur ma monture et mon épouse. Sur ma monture et mon épouse. Non? Des fois, quand quelqu'un désobéit et fait des péchés, Allah Ta'ala lui donne un petit châtiment comme ça. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il fait de sorte que son épouse, par exemple, yani, ne lui obéisse pas, par exemple. Ne l'écoute pas. L'énerve, ceci, cela. Même chose avec la monture. La même chose avec la monture. La monture, c'est quoi? C'est un animal. L'animal a été créé par qui? Par son seigneur. Donc c'est lui qui le commande. Il peut le faire arrêter, il peut le faire marcher quand il veut. Regardez par exemple, hein, ce qui va venir ici, le hadith. باركت به راحلته، فقال الناس هل خلأت القصوى مرتين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وماذا يخلق، ولكن سحابس الفيل. Regardez ce hadith authentique. Sallallahu alayhi wa sallam, on est en train de parler de la monture pour vous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande. Pour vous dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande. Alors une fois, le prophète alayhi wa sallam continua son voyage jusqu'à ce qu'il arrive à un os qui s'appelait Thaniya. Alors sa monture descendit sur ses quatre pattes. Elle ne voulait plus continuer le chemin. Et les gens dirent hal, 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 c'est-à-dire genre dit lève-toi, lève-toi. El Qaswa, elle s'appelle comme ça sa chamelle. La chamelle du prophète s'appelait El Qaswa. Ils ont dit El Qaswa s'obstine à ne plus marcher. Deux fois ils ont dit ça. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit El Qaswa, la chamelle, ne s'est pas obstinée à ne pas continuer le chemin. D'ailleurs, ceci n'est pas de son caractère, mais plutôt l'a arrêté celui qui a arrêté l'éléphant. Allahu Akbar. Donc la monture ne veut plus marcher. Les gens, ils ont cru que, bon, yani elle ne veut pas, elle s'est obstinée à ne pas marcher. Il a dit non. Ce n'est d'ailleurs pas de son caractère. Mais vous savez qui l'a arrêté? Il l'a arrêté et l'a paralysé pour qu'elle ne marche plus. Qui? Celui qui a arrêté l'éléphant. Qui a arrêté l'éléphant? Naam. Qui a arrêté l'éléphant? Vous connaissez tous l'histoire, l'histoire de Abraha. Abraha, qui a voulu, Zahma, il a prétendu aller détruire la Kaaba, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la Mecque. Il a dit, je vais la détruire. Et il a pris avec lui un éléphant, yani le plus énorme qui soit, et il est parti d'Abyssinie, d'Éthiopie, et avec beaucoup de soldats avec lui, et il marchait, marchait, marchait. Ensuite, quand l'éléphant, pour la première fois, a vu la Kaaba en face de lui, enfin, très loin, il a commencé à la voir, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est paralysé. Naam. Et il a même rebroussé le chemin, et on a beau le frapper pour continuer à avancer vers la Kaaba, il ne pouvait pas. On l'a frappé, on l'a fouetté, il ne peut pas. Pourquoi? Qui a arrêté l'éléphant? Qui a arrêté l'éléphant? Son créateur. Son créateur, Naam. Et il a rebroussé chemin et il a commencé à courir vers l'Abyssinie. Subhanallah l'Adem. Comme Allah subhanahu wa Coran, il a dit dans ce verset-là, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu complètement vaine et a envoyé sur eux des oiseaux par voler, faisait ces oiseaux, hein, qui lançaient sur eux des pierres d'argile, des pierres venant de l'enfer, des petites pierres. Les savants disent, la pierre, quand elle tombait sur la tête de la personne, elle tombait sur sa tête et sortait de son derrière. Tombait sur sa tête, le traversait son corps et sortait de son derrière. Ce que je voulais dire ici, c'est que qui a arrêté l'éléphant? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a arrêté ici la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est yani Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, wallahi, c'est pas elle qui s'est obstinée, mais c'est celui qui l'a arrêté, c'est celui qui a arrêté l'éléphant. Et regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un animal. Eux, ils ont accusé qui? Ils ont accusé un animal. Ils ont dit, cet animal s'est obstiné, il ne veut plus marcher. Il a dit non. Il a dit, c'est pas son caractère. Naam. Il a dit, c'est pas de son caractère. Je réécris ça, est-ce qu'il a dit ça? Non, voilà, il a dit ça là. Et ceci n'est pas de son caractère. Regardez, un animal, naam, et si on lui fait tort en islam, en quoi on le défend? On dit, c'est pas vrai. C'est pas de son caractère, mon animal, je le connais bien. C'est pas de son caractère de faire ceci, ces choses. Ne dites pas des choses sur lui qui ne sont pas vraies. Mais c'est plutôt son Seigneur qui l'a arrêté. Et pour vous prouver donc que yani, c'est yani, les personnes et aussi les animaux C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les commande. Et que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous châtier, alors nous éprouver, en les mettant contre nous. En les mettant contre nous. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez, je reprends ceci. Il a dit, celui-là, c'est pas celui-là, bon. Il a dit que je voyais ça en ma monture. Pendant que je cherche le texte, il a dit, je voyais ça en mon épouse et sur ma monture aussi. Non, c'est trois. Regardez ce qu'il a dit ici. Il a dit, je désobéis à Allah et j'en constate les conséquences sur ma monture et mon épouse. On a vu maintenant que la monture et l'épouse, ça appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il les régit, il les gère, il les dirige comme il veut. Il les dirige comme il veut. Pour vous donner d'autres preuves, hein, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande. Regardez ce qu'a dit Omar ibn Dar, radiallahu ta'ala anhu. Il a dit, magnifier d'Allah, écartant a permis. On n'est pas à l'abri de sa ruse lorsqu'on lui désobéit. Regardez bien. Magnifier le rang d'Allah en vous écartant de ce qui n'est pas permis. Car on n'est pas à l'abri de sa ruse lorsque on lui désobéit. On va donner d'abord quelque chose pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala ruse aussi. Et que sa ruse est. C'est pas quelque chose de facile. Regardez ce qui va suivre ici. Allah ta'ala dit dans le Coran, il a parlé certains gens, il a dit, ils ourdirent une ruse, et nous ourdîmes une ruse, sans qu'ils s'en rendent compte. Hein? Donc ils complotèrent, les gens, les ennemis, complotèrent une ruse, et Allah ta'ala complota aussi une ruse, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Ils croient que ce sont eux les gens, etc., et que Allah Ta'ala est insouciant, ou bien il dort, ou bien il est incapable. Non, il croit que il ruse. D'ailleurs, regardez ensuite ce qui se passe. Dans ce hadith, Anna rajulan mimman kana qablakum. Jalaba khamran ila qaryatin, fashabaha bilma'i fa'adhafa adhafan. فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا ألج فيه ألهم الله القردة سورة الدنانير فأخذها فصعد الدقل وصاحبها ينظر إليه فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين وأصله في السلسلة الصحيحة 2884. On est en train de parler de comment Allah subhanahu wa ta'ala يعني dirige et comment il peut inspirer et les paralyser, ou bien leur ordonner des choses, ou bien. D'ailleurs, regardez maintenant ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il a dit, il y avait un homme dans les temps passés qui a ramené du vin à un village pour le vendre, ajouter de l'eau au vin, tirant ainsi de grands profits. Il a un singe, une barque, puis voguèrent en pleine mer. Alors Allah Ta'ala inspira le singe qui prit la monte-ma, ouvrit la bourse alors que son propriétaire regardait. Le singe, les dinars c'était en or, l'air, hein, et un autre, il prit un autre dinar et le jeta dans la barque. Et ainsi, jeter la moitié dans la mer et l'autre moitié dans la barque. Hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc, autrefois, il y avait quelqu'un qui vendait du vin dans un village, mais il le mélangeait avec de l'eau. Il rusait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa ruse, l'âme, est plus grande. Allah a laissé cette personne jusqu'à ce qu'elle amassait beaucoup d'argent. Ensuite, il a dit maintenant, je revois. J'ai yani, plein d'argent. J'ai ma bourse pleine d'argent. Il a acheté un singe. Et il a pris une barque. Et il est parti, il a dit, je reviens chez moi. Je traverse la mer et je vais chez moi. Quand il était en pleine mer, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré le singe. Il lui a dit, prends la bourse et monte Là-bas en haut, sur le mât ou le mât, yani, vous savez, le plus haut de la barque, d'où il y a la voile qui commence à descendre, d'en haut. Il est monté tout à fait en haut. Ça y est, maintenant son propriétaire ne peut rien lui faire. Et qu'est-ce qu'il a fait le singe? Il a ouvert la bourse, et la bourse pleine de dinars en or. Il prit l'or et il le jeta à l'eau. Il le jeta à la mer. Ensuite, il prit le deuxième. Il le jeta dans la barque. Le troisième dans la mer. Le quatrième dans la barque. Le cinquième dans la. Le sixième dans la. Et comme ça, jusqu'à ce que la moitié des dinars soit partie dans l'eau, la moitié soit restée dans la barque. Donc, la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit: toi, tu veux mélanger de l'eau à ton vin. Autrefois, il n'était pas interdit de le vendre ni de le boire. Il a dit: je vais te montrer moi ma ruse. Je vais inspirer qui? Un singe, un animal. Un animal, on va dire comment? Le singe, il pensait à ça. Non. Il a inspiré un animal, un singe, et le singe, il est monté en haut et il a commencé à jeter un dinar dans la mer, un dinar dans la barque. C'est comme si le singe voulait lui dire, ou bien Allah Ta'ala voulait lui dire. Il voulait lui dire: non, ce qui vient de l'eau, ce qui provient de l'eau que tu as ajouté au vin, ira à l'eau. Et ce qui provient de toi et de tes efforts revient à toi. Donc, un dinar, on le jette à l'eau à cause de l'eau que tu as ajouté au vin, et un dinar, on te le jette à toi, yani pour le vin qui n'était pas mélangé, car quand on lui ajoute de l'eau, il y a une partie de l'eau et une partie c'est du vin. Pour le vin, voilà ton dinar. Et pour avoir mis de l'eau, ça doit partir à l'eau. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, il ruse avec les gens, avec les pécheurs. Les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui font les péchés. Et il peut même yani, inspirer un animal qui va prendre justice. Hein, qui va prendre justice et te châtier pour avoir désobéi Allah subhanahu ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Maintenant, il a appelé ici à la prière. Je dois aller prier et revenir pour répondre à vos questions. Bi'ilnillahi ta'ala. Subhanak lahumma bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Comme cher, donc je pose la première question d'une sœur qui dit: Barakallahu fikum à vous tous pour ce bien. Voilà, vous avez dit que si on continue à commettre des péchés et qu'Allah Ta'ala continue à nous donner des bienfaits, qu'il fallait prendre garde. Barakallahu fikum cher, si vous pouvez conseiller une sœur qui est dans le minhaj, walhamdulillah, mais qui n'arrive pas à arrêter de fumer, malgré qu'elle écoute beaucoup de cours et se fait des rappels. Barakallahu fikoum, cher.
Wa alaykoum barakatou. Est-ce que vous m'entendez? Non, je ne sais pas. Question. Heureusement que tu m'as. Je peux la lire. Si vous pouvez conseiller une sœur qui est dans le minhaj, alhamdoulilah, mais qui n'arrive pas à arrêter de fumer, malgré qu'elle n'arrive pas à arrêter de fumer, malgré qu'elle écoute beaucoup de cours et fait beaucoup de rappels, barakallahu fikoum. Je dis, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Quand une personne, naam, décide de ne plus désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle est sincère en cela, Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir ses portes et lui faciliter la chose, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, si elle est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, hein, elle doit quoi? Elle doit vaincre ses tentations et ses passions. Car c'est un djihad. Elle doit prouver à son nefs et à elle qu'elle arrête. Hein, il y a pas mal de gens. Fumer, et moi des gens qui fumaient yani, 2 paquets de cigarettes par jour. Mais quand ils ont fait la tauba, ils ont arrêté, et alhamdoulilah, il y a des gens, ça fait maintenant 30 ans, 40 longtemps. Il y a cette personne. Si elle veut arrêter de fumer, qu'elle mette entre ses yeux deux ou trois choses. La première, qu'elle sache que c'est interdit. Fumant, elle est en train de regresser au lieu d'avancer. Et qu'à chaque fois qu'elle prend une cigarette, elle est en colère contre elle. À chaque coupe et qu'on fasse. Bien, Inch'Allah, ta'ala, pour le soir et je reviens. Ta'ala. Je disais pour la personne, la sœur, qui a dit qu'elle était dans le munhaj et qu'elle fumait toujours, je lui dis que, dommage, elle ne goûtera jamais la saveur de la foi jusqu'à ce que elle quitte la cigarette. Car fumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala tout en le sachant. On a dit tout à l'heure que il n'y a pas un péché, il n'y a pas un péché mineur si on récidive. Quand on récidive, le mineur devient majeur. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire le djihad. Wajahidu fillahi haqqa djihadi. Il a dit comme ça. Et c'est quoi ici le djihad pour elle, pour cette personne? Elle, c'est de t'arrêter, yani de contredire ses passions. De contredire ses passions. Et combien de gens, pour Allah subhanahu wa ta'ala, ont arrêté non seulement la cigarette, mais la drogue. L'opium et la cocaïne et LSD, l'opium et je ne sais pas quoi, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ensuite, je dis à cette personne, si elle veut arrêter la cigarette, je lui conseille deux choses. La première, de ne pas dire j'arrête petit à petit, mais qu'elle l'arrête d'une façon sec, brutale. Demain, elle se lève, il n'y a plus de cigarette. Elle va avoir mal pendant une semaine ou 10 jours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser et quand il sait d'elle qu'elle est sincère, il va descendre la rahma dans son cœur et elle ne va plus jamais y revenir. La première. La deuxième, très importante, de ne jamais fréquenter les personnes qui fument. De ne jamais, jamais, jamais rester dans des endroits où il y a la cigarette et l'odeur de la cigarette. Et la troisième, de mettre entre ses yeux que si jamais elle meurt avec la cigarette, alors à quoi ça sert les efforts qu'elle est en train de faire, de prier, de ceci, de cela, le voile et dire Allah a dit, son prophète a dit, et ensuite moi je fais une faute pareille. Je dis donc, yani, puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et le prophète a expliqué ce verset, il a dit, ce sont ceux qui font le djihad nafs. Djihad nafs. C'est pour ça que le prophète a dit dans un hadith dans le Bukhari, il a dit, الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ. Il a dit, le mujahid, c'est celui qui fait le djihad à son nafs, fi sabilillah, pour yani, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, ma réponse. Tfadl.
Donc je vous en envoie cinq à la fois, cher. Et je vous lis donc la première. Question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum, cher. Pouvez-vous m'éclairer le sens de ce verset? Ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Barakallahu fikoum, sourate 4, verset 19. Tfadhal cheikh.
Afouane, je n'ai pas entendu le début de la question, ni même la question elle-même. Donc, est-ce que tu parles de la première question ici, où c'est écrit, oh les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Est-ce que tu as parlé de cette question? Taïb, je lis, Inch'Allah ta'ala, puisque je n'ai pas entendu la question, je lis. Pouvez-vous m'éclairer le sens du verset? Oh les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre le gré. Ne les empêchez pas de se marier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Al-Muhim. Allah subhanahu wa ta'ala parle ici aux tuteurs. Il leur dit, ne les empêchez pas de se remarier. Nam, dans leur but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné. Nam, parce que... Afoun, il parle au mari. Parce que des fois le mari il veut pas que yani, son celle qu'il va divorcer, il veut pas qu'elle se remarie. Il veut pas qu'elle se remarie. Mais il voudrait par contre que yani, elle reste toujours sous son autorité. Son autorité, l'âme, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit cela. Et même quand il parle aux tuteurs aussi, il leur dit que c'est interdit yani, de laisser comme ça yani, la femme chez toi, de ne pas la marier, dans le sens que si elle est riche ou là, la personne va profiter d'elle tant qu'elle ne s'est pas encore mariée. Tant qu'elle ne s'est pas encore mariée. Ensuite, il a dit, et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de bien nous comporter avec nos femmes. Et il dit que des fois, si tu détestes ton épouse, il se peut yani, qu'elle soit un bien et qu'elle ait de beaucoup de bonnes qualités. Beaucoup de bonnes qualités. Et donc, il se peut qu'on déteste une chose, mais que cette chose soit un bien pour nous. Soit un bien pour nous. Et le contraire, il est possible que aime par exemple une autre personne ou s'attache à une chose, alors que cette chose, par ses conséquences, yani ses fins, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Attendez, je vais vous ajouter quelque chose ici. Je vais voir ici vite ce qu'a dit. Bon, Sourate 4, verset 19. Ce qu'a dit le Cheikh Saadi Rahimallah. Une seconde. Bon, c'est le verset en arabe. Dommage, elle n'a pas écrit le verset en arabe, mais je pense que le verset en arabe. C'est voilà, s'il est là le verset, il dit "Amlou la yuhibbu lakum taritu an-nisaa karhan wa lan ta'dhuluhunna yatadhhabu ba'dhun." Naam. Donc ici, ça parle de quelqu'un qui veut pas marier le tuteur. Naam. La taritu an-nisaa karhan wa la ta'dhuluhunna. Et ne faites pas des empêchements pour les empêcher de se marier. De se marier pour profiter de. Une seconde, on va voir ce qu'a dit ici l'imam Saadi rahimahullah. Une seconde. Il y a eu la dynamo, la yahilu lakum an taritu an-nisaa karhan. Taritu an-nisaa karhan. Une seconde, an-nisaa. Une seconde. Saadi. Voilà. Donc il a dit, Cheikh Saadi dit, rahimahullah, attendez, est-ce que vous m'entendez d'abord? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc il a dit, كانوا في الجاهلية autrefois, إذا مات أحدهم عن زوجته, si quelqu'un, yani venait à mourir, de sa femme, il meurt et il laisse sa femme. Alors, c'est-à-dire son proche, comme son frère, ou Ibn Akhi, et le fils de son frère, par exemple, que c'est lui qui a le plus de droits sur cette femme. Même si elle veut ou elle ne veut pas. Même si elle accepte son beau-frère, ou alors elle n'accepte pas. Et alors il se marie avec elle, même si elle ne voulait pas, à la sadaqa, et c'est lui qui choisissait la dot. Et si maintenant elle ne veut pas se marier avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait des empêchements pour qu'elle ne se marie pas avec un autre. Naam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Et des fois, il l'empêchait de se marier avec une autre personne jusqu'à ce qu'elle lui donne quelque chose de ce qu'elle vient d'épouser, ce qu'elle vient d'hériter de son mari. Ou alors jusqu'à ce qu'elle lui donne aussi quelque chose de sa dot, que lui avait donné le premier mari. Le premier mari. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit cela. Non. Il a dit, sauf, bien sûr, maintenant il a dit une seconde, sauf si elle fait, non, un péché majeur comme la zina. Non. Il a dit, mais t'as bien fait mieux que zina. Il a dit si elle fait la zina, etc. Dans ce cas, il lui est permis Naam, de ne pas la laisser se marier, ne pas la laisser se marier, yani, comme punition, jusqu'à ce qu'elle fasse le repentir et revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadhal.
Question suivante d'un frère qui dit qu'Allah vous préserve, cher. Comment réagir face à un proche lorsqu'il commet un péché? Par exemple, il prend de l'usure pour acheter une maison. Peut-on le féliciter pour cette maison ou dire que la maison est jolie? Ou commettons nous-mêmes un péché si l'on fait cela? Barakallahu fikoum, cher.
La position qu'on doit avoir, c'est de ne pas lui montrer la joie pour avoir fait le haram. Ça, c'est en général. Quand quelqu'un fait le haram, on ne doit pas lui montrer de la joie. Pourquoi? Pour ne pas participer avec lui dans le haram qu'il vient de faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne le félicite pas. On ne le félicite pas parce qu'il a acheté ça en faisant du haram. Mais on peut lui dire. On peut lui dire par exemple que. Yani, ou alors, et même il est obligatoire de lui dire que yani, il a fait là une faute. Il a fait là, il vient de faire une faute en faisant yani, un prêt avec des intérêts. En faisant un prêt avec des intérêts. Maintenant, si on ne veut pas lui dire ça, du moins, on ne le félicite pas pour la maison. Non, pour ne pas participer avec lui, inshallah ta'ala. Tfadla.
Cher, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense, vous et les admins. Pardonnez-moi d'avance pour la longueur. Je viens vers vous afin de vous demander conseil. Je dois faire un choix entre deux frères pour me marier. Les deux correspondent à mes critères, sauf que le premier s'est présenté à mon grand frère il y a un mois. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de sens que le second, en sachant qu'il est plus âgé et est dans le minhaj depuis plusieurs années. De plus, avec lui, je sais que je pourrais partir rapidement en Hijra, faire la Hijra, car il a programmé de partir en septembre, Inch'Allah. Le problème, c'est qu'il n'est pas à 100% de la même origine que moi, du côté de son père. Donc cela a causé des conflits avec mes parents, mais malgré cela, le frère patiente encore et insiste pour se marier avec moi. Le second plus jeune est aussi dans le minhaj et est très motivé pour l'apprentissage de la science, Allahumma barak. Il est venu vers mon frère il y a 2 semaines seulement, mais comme il est à 100% de la même origine que moi, cela ne créerait pas de conflit avec mes parents s'il se présentait à eux. Cependant, il n'a pas de situation stable et vit encore chez ses parents, et moi je souhaite me marier, c'est avant tout pour fuir le domicile de mes parents où je suis persécuté dans mon dîn. Comme le premier frère patiente depuis déjà un mois et que le second correspond plus aux critères de mes parents au niveau origine, je ne sais pas si je dois choisir la facilité avec le second frère, en sachant que je suis quelqu'un qui me méfie beaucoup de la facilité. De plus, le premier risquerait de prendre cela comme une trahison, étant donné qu'il patiente depuis longtemps. Ou si je choisis le premier, en sachant que je ne sais pas si mes parents sont prêts à changer d'avis à cause de ses origines. J'ai fait Salat Istikhara à plusieurs reprises, mais ça n'a rien donné. Que me conseillez-vous, cher? Jazakumullah khairan. Par rapport à cette question et d'autres questions en général, le frère Abdou Mohamed avait fait un rappel la semaine dernière où il disait d'aller à l'essentiel dans la question et ne pas citer des choses qui ne sont pas essentielles pour que le cheikh donne une réponse. Donc Barakallahu fekoum, pour nous faciliter la lecture et passer le maximum de questions, aller à l'essentiel pour que le cheikh puisse vous donner une réponse la plus correcte possible, sachant que dans ces cas-là, il ne peut pas prendre la décision pour vous, Allahu a'lam. Tfadda cher.
En fait, ça paraît facile, mais c'est une question très difficile. C'est une question. La réponse à cette question est très difficile. Parce que Il y en a un côté, elle dit celui-là il est bien, ensuite l'autre il est meilleur, ensuite le meilleur il est un peu moins bien, d'un autre côté qui n'est pas bien, il est mieux de l'autre côté. Ensuite, si on voit ce côté, c'est celui-là qu'on doit choisir, si on voit l'autre, c'est l'autre qu'on doit choisir, et comme ça un dilemme. Un dilemme, il y en a celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là, à cause de ceci, à cause de cela, et c'est vraiment difficile pour répondre, c'est vraiment difficile. Laissez-moi le temps, inchallah ta'ala, de Wasmuk. Muslim, envoie la question à Toufer. Toufer ibn al-Qayyim, envoie-lui la question, qui va me l'envoyer, quand le cours se termine, il va me l'envoyer sur mon adresse mail. Et je vais méditer sur cette question. Inch'Allah ta'ala, je répondrai samedi, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadla.
Comme cher. Question suivante. Question d'un frère qui demande concernant la parole d'Al-Fadl ibn Iyad. Je désobéis à Allah et j'en constate les conséquences sur ma monture et mon épouse. En est-il de même inversement, c'est-à-dire pour la femme qui désobéit concernant son époux, ou peut-être même sur les enfants? Barakallahu fikum wa hafidhakum Allah, cher.
C'est normal. Ça ne veut pas dire que c'est seulement pour le mari. C'est aussi pour elle. C'est aussi pour elle par rapport au mari. Et des fois, c'est les enfants qui veulent pas obéir ceci, cela. C'est comme ça des rappels que Allah subhanahu wa ta'ala donne à la personne. Et il fait des épreuves une personne par rapport à l'autre. Il fait des épreuves une personne par rapport à l'autre. Une seconde, là, une seconde, je vous donne un verset ici. Si je le trouve une seconde, fitna. 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 Une seconde. Fitna. Atasbirun. Atasbirun. Une seconde. Je crois que je suis pas connecté faire le programme. Une seconde, je vois si je suis connecté. طيب وما أرسلنا قبلك من مرسلين إلا إنهم لا يأكلون طعام يمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون Et nous n'avons envoyé avant de toi que des messagers manger de la nourriture et circuler dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il fait comme épreuve ton mari et des fois comme épreuve pour lui son épouse et des fois les enfants et des fois comme ça. Non. C'est pour ça que les selfs autrefois quand ils montaient sur la monture ils voyaient que ça marchait pas, ils la frappent comme ça avec ses chevilles, elle marche pas. Ils disaient que ils ne cherchaient pas un bâton pour la fouetter pour qu'elle marche, mais ils revenaient en eux-mêmes, essayaient de penser. Quel est le péché que j'ai dû faire hier ou avant-hier ou cette semaine? Pourquoi, brutalement comme ça, soudainement, la monture ne veut pas marcher? Et ceci est aussi valable pour ceux qui ont la voiture. La voiture qui ne veut pas démarrer alors que, subhanallah l'adhim, je viens juste de lui faire une révision et elle ne veut pas démarrer. Il y a quelque chose, donc, il revient vers Allah, subhanahu wa ta'ala, elle fait la tawba et bi'idhnillah ta'ala, elle va démarrer.
Pense. Inch'Allah, je vous lis la prochaine question. Question d'un frère. Pourriez-vous faire un rappel, cher, sur les personnes, donc les personnes considérées comme tuteurs, qui peuvent marier une femme divorcée qui ne vit plus chez ses parents? Faut-il obligatoirement qu'ils soient musulmans pratiquants? Barakallahu fikoum. Donc là, il parle du tuteur de la femme divorcée. Tfadal, cher.
Alaykoum salam, jeudi, que la personne, quand une femme, qu'elle se soit jamais mariée ou alors qu'elle soit divorcée. Dans les cas, elle doit avoir un tuteur et ne peut se marier elle-même. Car certains croient que la divorcée n'a pas besoin de tuteur. Alors que c'est faux. Le hadith est clair. Il a dit, si elle est vierge, elle ne s'est jamais mariée, il a dit, alayhi salatu salam, sans, yani, le fait qu'elle se taise suffit. Le fait qu'elle se taise, quand le tuteur lui dit, il y a X qui veut demander ta main, si elle se tait, il a dit, ça suffit. Quant à la divorcée, le mari déjà qui est mort par exemple, il a dit alayhi salatu salam, elle doit yani, le montrer clairement qu'elle veut ou qu'elle veut pas. Elle doit montrer clairement, c'est pas comme l'autre qui s'est jamais marié, elle a honte devant son père, elle sourit, elle baisse la tête. C'est comme ça dans la société musulmane. Mais il a dit, si elle est divorcée, ou alors son mari meurt, elle doit le dire clairement. Maintenant, c'est qui son tuteur? C'est bien sûr, obligatoirement, il faut qu'il soit un musulman. Sauf si c'est elle, si c'est une chrétienne. Chrétienne, son père qui est chrétien, c'est lui son tuteur. Mais maintenant, si elle est man, il faudrait que son tuteur soit le musulman. C'est-à-dire son père, son grand-père, comme on a dit la fois passée. Ensuite, on va du côté de son fils. Son petit fils, son frère, et comme ça, son oncle et le fils, son oncle. Est-ce que faut-il obligatoirement qu'il soit pratiquant? Au moins la salat. Au moins la salat pour sortir des divergences. Car certains ont dit que s'il prie pas, il est mécréant. Pour sortir des divergences, au moins la salat. Au moins. Maintenant, s'il boit, s'il fait la zina, si, tout ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il soit musulman, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Sallallahu alaykoum, cher. Question suivante d'une sœur qui concerne le cours qui vous dit qu'Allah vous préserve, cher. Pouvez-vous me donner des précisions sur cette phrase? Si tu vois qu'Allah continue à t'accorder des bienfaits alors que tu lui désobéis, prends garde. De quelle désobéissance s'agit-il? Cela veut-il dire que si nous n'avons pas des preuves, Allah ne nous aime pas? Car si une personne fait du bien pour Allah et qu'il est récompensé pour cela, la personne va dire Alhamdulillah et va remercier Allah pour les bienfaits qu'il lui accorde. Pouvez-vous m'expliquer, cher, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et qu'il vous accorde le Firdaus ainsi qu'à tous ceux qui sont présents? Barakallahu fikum.
Donc, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il a dit, si tu vois qu'Allah continue à t'accorder des bienfaits, alors que tu lui désobéis, prends garde. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, de quelle désobéissance s'agit-il? Elle a dit, cela veut-il dire que si nous n'avons pas des preuves, Allah ne nous aime pas? Car si une personne fait du bien pour Allah, et qu'elle est récompensée pour cela, la personne va dire, Alhamdoulilah, va remercier Allah pour les bienfaits. Pouvez-vous m'expliquer? Taïb, moi, j'ai pas bien compris ce qu'elle veut dire. Mais je vous explique qu'a voulu dire ici, il faut dire, rahimallah. Si tu vois qu'Allah continue à t'accorder des bienfaits, alors que tu lui désobéis, prends garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un désobéit à Allah, n'importe quelle désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui donne pas des bienfaits. Au contraire, quand quelqu'un désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va lui donner des épreuves, il va lui donner des maladies, il va ceci, il va cela. Mais si maintenant il ne me donne pas, et moi, à chaque fois que je désobéis, lui, il m'ouvre les portes. Il m'ouvre les portes de la richesse, il m'ouvre des portes de la gloire, de la réputation, de ceci, cela, alors que moi je désobéis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est grave pour moi. Je dois prendre. Celui qui a mélangé tout à l'heure dans l'histoire, qui a mélangé, ajouté de l'eau au vin. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a fait? Vite, il lui a quoi? Il lui a fait payer. Il a inspiré le singe qui lui a jeté la moitié de son argent. Ça veut dire c'est masha'Allah. Mais si maintenant il le laisse revenir chez lui et s'enrichir et ceci, cela, ça veut dire qu'il doit prendre garde, c'est grave, c'est grave. J'ai toujours cité l'histoire du compagnon qui a posé les mains sur les épaules d'une femme de joie autrefois, et qui ne savait pas et croyait qu'elle était toujours dans le même chemin, et que quand il a rebroussé chemin, il s'est cogné contre le mur. Il est allé se prendre au prophète, plaindre au prophète alayhi. Dans le hadith authentique, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, tu es quelqu'un que Allah, auquel Allah ta'ala veut du bien. Car pas du bien à une personne, il la laisse comme ça. Il la laisse avec ses péchés jusqu'à ce qu'elle le rencontre, comme ça, comme je dirais, avec une montagne de péchés. Donc, si on fait des péchés, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse dans les péchés, en train de les faire, et pire encore, il va nous ouvrir les portes, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est grave pour nous. Il ne veut pas nous réveiller pour que on revienne vers lui. Naam. J'espère que c'est clair, inshallah ta'ala.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsanallahu ilaykum, cher. Qu'Allah azawajal vous récompense et vous préserve ainsi que les admins et tous les frères et sœurs. Ma question est la suivante. Beaucoup de livres sont donnés en aumône par les fidèles à la mosquée. Et ces livres sont mis à disposition à des personnes désirant les lire. Cependant, il y a toutes sortes de livres. Les Coran, des livres écrits par des innovateurs, etc. Et mon mari a trouvé un livre d'innovateur et a voulu le prendre pour le déchirer. Il demande donc s'il a droit de faire cet acte, sachant que ce livre appartient à la mosquée. Sinon, que doit-il faire? Barakallahu fikoum cher. Tfadha cher.
Wa alaykoum salam wa barakatou. S'il sait que l'imam, c'est quelqu'un qui yani, désapprouve le mal, quelqu'un qui condamne le blâmable, il lui dit, hein, il lui prend tous les livres et lui dit, regardez, tous ces livres sont faux, sont ceci, sont cela. Hein. Il dit, comme les livres des Rawafed, les livres des Tekfiriens, des ceci, cela. Hein. Mais si par contre il sait que l'imam ne peut rien faire et que yani, s'il lui dit il va rien faire et que lui il est sûr qu'en prenant le livre pour le déchirer ou pour le brûler qu'il va pas faire de fitna car il se peut qu'en prenant un livre hein, et que quelqu'un le remarque ou le déchire ou je ne sais pas quoi et qu'ils vont appeler l'imam et l'imam va appeler la police et ceci cela. Il va rentrer dans la fitna. Non. Mais s'il sait que c'est un livre de bid'a, d'innovateur, et que yani, il peut en secret, le prendre pour le déchirer ou le brûler, qu'il le fasse, inshallah ta'ala, à condition qu'il soit sûr que yani, c'est un livre d'innovation. C'est pas. Par exemple, il va dire, je vais prendre Fath al-Bari de Ibn Hajr al-Asqalani parce que Ibn Hajr avait des ash'ariyat et que des fois les attributs, il les interprétait, etc. Non. Ni un livre de Nawawi, rahimahullah. Il va prendre Riyad Salihin, il va dire Nawawi avait des ash'ariyat dans la Aqidah, donc son livre n'est pas correct, donc je vais le déchirer. Je ne parle pas de livres pareils. Je parle de livres connus que ce sont des livres de bid'a à 100%. Comme des livres de Rawafid, des livres de chiites, des livres de Jahmiya, des livres. Dans ce cas, c'est il peut faire cette chose, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal.
Wallah alaykoum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande si une personne est éprouvée par une autre.
Afouane, j'ai pris le micro. Juste, je dis, mais s'il veut y aller sortir des problèmes, il peut mettre la chose entre les mains de l'imam. Ensuite, s'il change le blâmable, il le condamne, il a fait ce qu'il fallait faire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si l'imam ne veut rien faire, c'est la responsabilité de l'imam, parce qu'il lui a montré, il lui a dit, regarde qu'est-ce qu'il y a, et il ne veut pas changer. Dans ce cas, c'est l'imam qui va endosser Yawm al-Qiyamah. Wallahu a'lam, tfadlal.
Allah fait comme cher. Une question de la sœur. La question de la sœur est si une personne est éprouvée par une autre qui lui fait des problèmes, cette personne éprouvée a tellement pensé à ses problèmes que, subhanallah, la foi a baissé. Elle a beaucoup parlé de ses injustices et a délaissé certaines œuvres sunnah. Comment doit faire cette personne pour reprendre, inshallah, et avoir une foi, masha'Allah, comme avant. Barakallahu fikoum, cher.
Car je reviens à ce que je disais, je reviens à ce que je disais par rapport au livre de la bid'a, comme ça que c'est permis yani, de déchirer des livres, etc. Plusieurs personnes, il y a des livres qui pour eux, il dit pour moi c'est un livre de bid'a. Et il va commencer à prendre comme ça des livres et les déchirer, alors que yani, ils contiennent beaucoup plus de bien que de mal, comme Fethal Bari, les livres de Nawawi, etc. C'est pour ça que à la fin j'ai dit qu'il vaut mieux qu'il parle avec l'imam. Et qu'il laisse l'affaire de cette affaire entre les mains de l'imam. Wallahu ta'ala alam, sauf si c'est vraiment un livre, comme j'ai dit, à 100% de bid'a. Al-Muhim, elle a dit, si une personne est éprouvée par une autre qui lui fait des problèmes, cette personne éprouvée a tellement pensé à ses problèmes que, subhanallah, la foi a baissé. Elle a beaucoup parlé de ses injustices et a délaissé certaines œuvres sunnah. Comment doit-elle faire, cette personne, pour reprendre, avoir une foi, inshallah, comme avant? Naam, elle doit se dire que. D'abord, si cette personne m'a fait autant de mal, hein, il n'y a pas un messager avant moi parmi les 124 000 qui n'avait pas quelqu'un qui aussi lui faisait du mal. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, kulli aduwwun min. Regardez le verset, je vais vous le donner, inshallah Ta'ala, une seconde. Aduwwun aduwwun min. Al-Mujrimin, une seconde. Adouun min Mujrimin. Regardez ce qu'il a dit. Taïb, pourquoi il veut pas s'afficher? Je dis salam alaikum d'abord. Taïb, pourquoi le verset. Allah, il veut pas s'afficher. Maalesh. On va le voir en arabe. Voilà. Mais je le cherche en français. Je le cherche en français. Le programme a bloqué. Une seconde. Je quitte et je reviens. Je quitte et je reviens le programme. Donc je disais que la personne doit se dire qu'il n'y a pas un messager qui n'avait pas quoi? Qui n'avait pas quelqu'un qui était contre lui, lui faisait des problèmes. La première des choses. La deuxième des choses que doit se dire la personne, c'est que, naam, elle doit se dire, c'est que, Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être que, est en train de m'éprouver à cause des fautes que je fais. À cause des fautes que je fais. Car comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, quand on veut se plaindre de quelqu'un, il faut d'abord se plaindre de soi-même. Et se dire, si Allah Ta'ala me donne des gens qui m'éprouvent, ça veut dire à cause de moi-même. Il veut me punir. Une seconde. Min al-mujrimin. Peut-être qu'il va s'afficher maintenant. Une seconde. Min al-mujrimin. Al-mujrimin. Adoun min mujrimin. Une seconde. Adoun. Bon, Khalina, il veut pas s'afficher. Je sais pas ce qui se passe. Al-Muhim, elle me disait que. Non, elle doit oublier cette personne. Cette personne qui lui fait du mal. Elle lève les mains vers le ciel. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ni'mal wakil. Ya Allah, kfini sharra hadal insan bima shi'at. Ya Allah, vous me suffisez, suffisez-moi de cette zone, naam, bimashit, la façon comme vous pouvez ou là comme vous voulez. Et elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de, yani, de s'occuper de cette personne. Et elle revient vers elle-même, elle se ressaisit, elle commence à faire la sunna, etc. Et elle va voir, inshallah ta'ala, comment elle va oublier vite. Comment vite elle va oublier. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette vie ou dans l'au-delà. Barakallahu fik. Ainsi, à fait, nous avons-nous assigné un ennemi. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. qui s'inspirent trompeusement. Le à chaque fête, nous avons assigné un ennemi. Et nous sommes sur le chemin des prophètes. Nous devons tous avoir un ennemi. Que ce soit un ennemi des diables ou bien un ennemi, yani, des hommes. Des hommes. Donc ça, c'est une sunna d'Allah. Je ne dois pas m'occuper seulement de cet ennemi. Je dois m'occuper de mon grand ennemi qui est mon nefs. Mon nefs qui veut que je la laisse faire les passions, etc. Je dois me ressaisir et faire la sunna et faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Quant à la personne qui m'a fait du mal, elle va punir, elle va être punie tôt ou tard. Si c'est pas ici, c'est dans l'au-delà, c'est sûr, inshallah ta'ala.
Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Qu'Allah vous préserve, cher, ainsi que les admins et tous ceux qui suivent vos cours. Voici ma question. Une personne qui renie un décret d'Allah est considérée mécréante. Par exemple, elle considère l'homosexualité permise et dit ouvertement que le Coran ne l'a jamais interdit. Mais nous est-il permis de la taxer de mécréante? Comment doit-on considérer cette personne si cette dernière prie et se dit musulmane? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah nous fasse à tous miséricorde et nous réunisse au paradis. Amen. Tfadal, cher.
Cette personne, Wallahu ta'ala alam, a des choubouhettes. La preuve, elle a dit que le Coran ne l'a pas interdit. Non, le Coran ne l'a pas interdit. Elle veut dire par là, il n'y a pas un verset explicite, non, qui parle de cela. C'est pour cela que on ne peut pas lui dire que tu es devenue mécréante jusqu'à établissement de la preuve sur elle. C'est-à-dire, lui ramène ce qu'ont dit les savants, les grands savants sur l'homosexualité, on lui ramène des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu es celui qui fait et celui sur lequel on a fait. Tu es les deux, il a dit comme ça, tu es les deux. Celui qui a fait et celui sur lequel on a fait. Al-Mohim, c'est pour ce, par exemple, aux États-Unis, vous allez trouver, j'ai vu une fois sur une vidéo, un imam qui est homosexuel et qui dit que ce n'est pas interdit en islam. Il a dit c'est pas interdit et il y a les homosexuels qui vont là-bas prier chez lui. Ce sont des gens donc qui suivent le Coran, hein, et qui ne savent pas qu'il y a des hadiths authentiques qui interdisent cela, qui interdisent cela. Donc celui-là, il faut d'abord établir la preuve sur lui montrer ce qu'ont dit les savants, etc. Ensuite, quand il dit non, je reconnais pas ces hadiths, ou là je m'en fous, ou là, dans ce cas, il devient kafir, bi'idhnillahi ta'ala. Donc cette sœur, je conseille qu'on doit d'abord lui conseiller, lui envoyer les fatwas, des audios des savants et ce qu'ils ont écrit, etc. Et ensuite, pour pouvoir yani, établir la preuve sur elle, pour pouvoir la juger quand elle renie. Car je pense qu'elle a des choubouhettes. Elle a dit dans le Coran, non, il n'y a pas dans le Coran. Elle va dire donc, c'est moi qui ai raison. Il n'y a pas dans le Coran quelque chose de clair comme ça, d'explicite, que yani, il fallait les tuer, etc. Al-Muhim. C'est pour cela que j'ai été très déçu aujourd'hui quand j'ai vu comme ça, j'ai vu sur Google, c'était écrit actualité. J'ai cliqué sur actualité pour voir. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a ici dans les actualités. J'ai trouvé que il y avait une vidéo qui montrait le premier mariage officiel en France d'homosexuels, de deux hommes, Naam. Donc c'est à Montpellier. C'est à Montpellier, ils ont dit 11 jours. Voilà, Montpellier. Donc il a dit 11 jours. 11 jours après la loi. Donc ceux-là, ils ont quoi? Ils ont décidé d'appliquer. Astaghfirullah. Mais le plus grave, ce qui m'a vraiment écœuré, quant aux deux hommes qui se sont mariés, ça m'a pas étonné. Pourquoi? Ça m'étonne pas parce que les animaux, n'ont pas de péché. Font des animaux. Font la zina, ils n'ont pas de péché. Pourquoi? Ce sont des animaux. Mais ce qui m'a étonné dans tout cela, c'est la mère. Mère, comme ça. Mère. Parce que c'est une femme. La mère qui les a mariés. Pourquoi ça m'a étonné? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui m'a étonné dans la mère? Ce qui m'a étonné, c'est qu'elle s'appelle Najat. Najat, quelque chose comme ça. Ensuite, Belkacem. Je me rappelle très bien du nom parce que je viens de le lire seulement, ça fait 2 heures ou là. Najat Belkacem. Najat, quelque chose Belkacem. C'est quoi alors? C'est quoi? Moi j'ai lu que c'était la mère. C'est la porte-parole du gouvernement français. Alors c'est elle, Naam, qui est venue. Elle est la porte-parole qui est venue quoi? Leur présenter les félicitations. C'est ça ce qui m'a écœuré, ce qui m'a. Non, elle est mariée à un kafir, c'est pas étonnant. C'est ça ce qui m'a vraiment yani, rendu, comment dire, chagriné. Je me suis dit, subhanallah, yani, apparemment, c'est une musulmane, apparemment, elle dit Najat Belkacem, j'ai dit une Algérienne, ou une Marocaine, ou une Tunisienne, sûrement, mais qui, à force de vivre là-bas, elle a dû oublier son dîn. Elle a dû oublier qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'islam, et elle est allée, yani, quoi, leur présenter ses comment ça s'appelle ses félicitations. A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Voilà. Et ce qui m'a par contre plu, c'est qu'il y a vraiment, yani, vraiment des koufs qui sont contre. Vraiment beaucoup de gens, j'ai vu dans des vidéos, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de couples qui sont contre ces choses, par la ce qu'on appelle la fitra. La fitra, c'est-à-dire la prédisposition naturelle avec laquelle la personne a été créée, que elle n'accepte pas ces choses-là. Elle n'accepte pas ces choses-là par fitra, par prédisposition, ni religion, ni rien. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre. Beaucoup, beaucoup de gens, des kofars qui sont contre cette chose, par la puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver.
Allah fait comme cher. Et ça, c'est aussi une réponse chère à ceux qui disent que les pays musulmans et les pays koufars, c'est la même chose. Allah alam. En tout cas, question suivante, question d'une sœur qui dit: Barakallah fait comme cher pour ce.
Afouana, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, c'est Bilal, si c'est notre Bilal, non, a dit qu'il y a des versets sur comme l'autre, etc. Le groupe de l'autre, etc. Non, il y a beaucoup de versets sur cela. Il y avait pas dans le Coran quelque chose de clair, dans le sens, je veux dire, que, c'est-à-dire, qu'en punition, et les deux. C'est ça ce qu'il n'y a pas de clair. Comme, yani, les deux personnes qui font cette chose, soit des hommes ou des femmes, il faut les tuer. Il n'y a pas un verset comme ça clair, mais il y a un hadith authentique du prophète Sarsam qui dit il faut les tuer. Et les savants ont divergé dans la façon comment les tuer. Est-ce qu'on les tue en les brûlant, ou est-ce qu'on les tue en les jetant du plus haut, de la plus belle habitation de la ville. Par exemple, s'il y a un immeuble où il y a 100 étages, certains ont dit on les jette de là-bas. On les jette de là-bas comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait au groupe de l'autre, comme il aura renversé le dessus, il l'a mis en dessous et dessus. Naam. Sinon, naam, il y a des versets dans le Coran qui parlent du groupe de Qumran et qui disent que Allah Ta'ala yani, a interdit cela, était contre eux et les a punis. Mais pour la punition qui est les tuer les deux, il n'y a pas une chose claire dans le mais plutôt dans la sunna. Naam,
comme ça aussi, vous voyez que Bilal, il est attentif à l'Aïbark. Et moi, je vous pose la question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: Barakallahu fikoum pour ce cours très instructif. Je souhaite sincèrement que l'on se retrouve tous au plus haut degré du paradis. Amin. Qu'en est-il si nous sommes conscients de faire un péché et que nous savons que c'est un péché et que nous désobéissons à Allah, mais qu'on ne peut pas arrêter de le faire par peur des représailles de sa famille, et que l'on essaye sincèrement de s'en remettre à Allah pour améliorer la situation. Patientons-nous dans le bien, même si nous sommes dans le péché? Je suis en plein djihad de nafs, Shaitan m'embellit le péché que je fais, tandis que je reste ferme sur ma pratique et mon adoration. Barakallahu fikoum, cher.
Naam, ce Bilal dont tu viens de parler, C'est quelqu'un qui s'y connaît bien dans, le hacker, genre hacker, etc. C'est pour ça qu'on a intérêt à le ménager. Sinon, il va nous faire des problèmes et il va nous fermer le salon. Donc, nous, on doit lui dire que tu as raison, ceci, cela, et le flatter, sinon, il va nous faire des problèmes. Voir le site, problème ces temps-ci. Alors, on n'a pas. Mousseline, est-ce que vous m'entendez? Ou la Bilal, il a envoyé. Vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, il n'a pas encore envoyé quelque chose. Non. Pour répondre à. Ouais. Non. Pour répondre à cette personne, vraiment, vraiment, je n'ai pas très bien compris ce qu'elle a voulu dire. Non. Ce qu'elle a voulu dire, parce que si c'est un péché qu'on fait sur soi-même personnellement, je donne l'exemple de la cigarette. Dans le cas, yani, la personne n'a plus d'excuses, parce que c'est elle, entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que il faut qu'elle fasse des efforts et qu'elle arrête bi'idhnillahi ta'ala, quitte à tomber malade quelques jours, quitte à mourir. Si je tombe malade et je meurs à cause d'avoir arrêté la cigarette, je meurs shahid, un martyr. Parce que je suis mort dans la voie d'Allah. J'ai voulu faire le djihad et je suis mort. Naam. Et beaucoup, des milliers de gens ont arrêté même la drogue. La drogue qui est beaucoup plus difficile à arrêter que la cigarette. Et ils l'ont arrêté, fi sabilillah, fi sabilillah, fi sabilillah. Mais maintenant, si c'est la personne, par exemple, parce qu'elle n'a pas donné un exemple, si c'est par exemple le voile, on lui a dit, par exemple, si tu mets le voile, on te jette dehors, par exemple, ou des choses comme ça, dans ce cas, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum, qu'elle craigne Allah ta'ala au maximum jusqu'à ce qu'elle sorte de cette maison et qu'elle soit chez elle, mariée, etc. Et dans ce cas, qu'elle mette le voile à 100%. Mais maintenant, qu'elle mette juste quelque chose pour ne pas sortir, yani dévoilée. Qu'elle mette quelque chose, comme a dit Cheikh Fawzan, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse une solution et qu'elle aille chez elle. C'est pour ça que donc j'ai dit que c'est pas très clair sa question.
Donc, question suivante, question d'une sœur qui dit: une sœur est tombée enceinte hors mariage. Elle souhaite maintenant se marier avec cet homme. Peut-elle se marier avec lui en étant enceinte ou faut-elle qu'elle attende la fin de sa grossesse? Y a-t-il divergence sur cela et également concernant les droits du père envers son enfant conçu hors mariage, le nom de famille, etc. Si oui, quel est l'avis le plus fort? Barakallahu fikoum, cher.
Alaykoum salam, il n'y a pas que si un couple a fait zina et que la femme est tombée enceinte, qu'ils ne peuvent pas se marier. Jusqu'à quoi? Jusqu'à yani, l'accouchement et yani, la fin des logis. Il n'y a pas de divergence entre les savants. Que quelqu'un qui a fait zina avec une femme ne peut pas se marier avec elle, même jusqu'à ce qu'elle accouche. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Et ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, qu'il fasse le repentir. Si jamais elle fait le repentir et lui, il fait pas, il dit moi, je m'en fous, l'essentiel, je me marie, classe. On va lui dire le mariage est caduc, il n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec un zani. Elle s'est mariée avec un fornicateur. La preuve, il a fait fornication, il n'a pas fait le repentir. Si lui, il fait la tawba et elle ne le fait pas, il ne peut pas se marier avec elle. Pourquoi? Sinon, il s'est marié avec une fornicatrice. Et Allah Ta'ala a dit, wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin. Il a dit ceci, c'est-à-dire le mariage des fornicateurs, il a dit ceci est interdit pour les croyants. Est interdit pour les croyants. Non, y a-t-il, ensuite, les droits de l'enfant. Cet enfant sera l'enfant de la mère et non pas du père. Si maintenant, après le repentir, ils vont se marier, il portera pas le nom du père. Il aura un autre nom. Mais il sera l'enfant de la mère. C'est-à-dire, si sa mère meurt, cet enfant va l'hériter. Et si l'enfant meurt, la mère va l'hériter. Quant à l'homme, c'est un étranger pour le père. Il sera son beau-père. Il sera son beau-père. Si jamais cette femme, c'est l'avis le plus fort. Même si Cheikh Ibn Uthaymeen et Ibn Taymiyyah et avant Abu Hanifa, Ishaq Ibn Rahawi ont un autre avis. Ils ont dit si jamais il n'y a pas un autre homme, il n'y a pas un autre homme qui dit que c'est mon enfant. C'est-à-dire il n'y a pas deux hommes qui se bagarrent pour cet enfant. C'est-à-dire il n'y a pas deux hommes qui ont fait la zina avec elle et chacun dit c'est mon fils. Il a dit dans ce cas, certains savants ont permis de lui donner le nom. De lui donner le nom. Mais ce n'est pas l'avis, comme j'ai dit, de la plupart des savants. Tfadal.
Baraklou fikoum cheikh. La sœur qui me semble qui a posé la question a une précision, a envoyé une précision. Elle dit pour le couple qui a forniqué, et si le frère a forniqué avec une chrétienne et il se marie, et que la chrétienne ne fait pas tawba, est-ce que le mariage est valide? Baraklou fikoum cheikh.
Le mariage n'est pas valide, car l'une des conditions, même quand quelqu'un veut se marier avec une chrétienne, l'une des conditions citées dans le Coran, dit le muhsanat min ahli kitab. Muhsanat, ça veut dire celle qui fait pas la zina. Voilà. Et après la zina, a fait le repentir. Même dans son dîn, a fait le repentir. Naam. Donc ça, c'est une condition. Sinon, il s'est marié avec une fornicatrice. Tfadal.
Comme cher. Donc, je pose une question qui est en rapport avec le cours, donc concernant les péchés. Une personne demande, j'ai mon père qui utilise l'ordinateur à des fins mauvaises, comme par exemple le fait de parler avec des femmes étrangères sur Facebook. J'ai la possibilité de bloquer son compte et lui empêcher l'accès au PC tant que je peux. Mais suis-je obligé de lui expliquer que tout ce qu'il fait est haram? Car il ne sait pas que je suis au courant et cela me gêne de discuter de ça avec mon père, car on n'a jamais eu de conversation proche entre lui et moi, mais toujours une relation père-fils. Barakallahu fikoum cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Bloquer, si c'est possible de lui bloquer. Ils sont bloque-lui. Si c'est possible de lui bloquer le compte. Et sans qu'il sache que c'est toi, maalich, de lui bloquer, inshallah ta'ala, pour condamner le blâmable. Tu peux dire à ta mère et ta mère peut lui dire comme ça par le biais. Toi tu dis à ta mère, c'est facile de parler à sa mère plutôt qu'à son père. Et elle peut lui dire bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et si jamais maintenant tu peux lui dire directement, naam, sans les détails, de dire que par exemple, quand quelqu'un utilise par exemple l'ordinateur à des fins qui sont pas bien, sans dire c'est quoi, à des fins qui sont pas bien, il aura des péchés au Qiyama et celui qui a participé avec lui aura aussi des péchés. Et comme ça, tu auras, inshallah ta'ala, établi la preuve sur lui. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. On dit ici, l'avis de Taymiyyah, c'est à cause du hadith de Jawrij. Naam. C'est le hadith de Jawrij. C'est l'avis de Ibn Taymiyyah. Et il y a aussi quelqu'un des salaf qui a fait ça. Ça. Naam. Ibn al-Qayyim a cité aussi. Le Hadith, quand il a dit c'est qui ton père? C'est qui ton père? On me dit ici, on me dit, dites-lui, on me dit ici, dites-lui, sœur dévoile devant des gens passés son mahram à l'école. à l'école. Elle se dévoile devant des gens qui ne sont pas ses mahrams. Quand il dit, si elle peut ne pas aller à l'école, elle n'y va pas. Si elle peut. Mais si elle a des contraintes, on lui dit, on va te jeter dehors, on va ceci, on va cela, et que vraiment c'est difficile pour elle, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Jusqu'à ce qu'elle soit libre, bi'idhnillahi ta'ala.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne le henné. Est-il autorisé à la femme de se mettre du henné sur les mains sans aucune raison avec ce que l'on appelle du sparadrap que l'on trouve en Algérie? C'est du papier autocollant qui laisse des motifs sur les mains car une sœur m'a dit que le fait de mettre le henné de cette manière n'était pas autorisé et même plus que les parties qui sont avec des motifs sont dans le feu. Wallahu alam. J'aime le henné et cette parole m'a fait peur. Je ne porte pas de gants. Barakallahu fekoum de m'éclaircir sur ce point. Barakallahu fekoum aussi pour le rappel et le temps que vous nous accordez et aussi Barakallahu fekoum pour les admins. Tfadashir.
Afoun, vous m'entendez? Je suis en train de lire la question. Je suis en train de lire. Voilà. Est-il autorisé à la femme de se mettre du henné sur les mains sans aucune raison? Avec ce qu'on appelle du sparadrap que l'on trouve en Algérie, du papier autocollant qui laisse des motifs sur les mains. Car une sœur m'a dit que le fait de mettre le henné de cette matière n'est pas autorisé. Et même plus que les parties qui sont avec des motifs sont dans le feu. J'aime le henné. Je n'ai jamais entendu que mettre le henné de cette façon était interdit. Maintenant, si les motifs, nam, ça va lui mettre, yani, qu'elle va mettre, c'est des hommes, des femmes, des animaux. Dans ce cas, c'est interdit, d'accord. Mais si c'est des motifs, nam, où il n'y a pas d'âme, je ne sais pas, par exemple, des voitures, des je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas interdit. Et si quelqu'un dit que c'est interdit, il nous montre qui a interdit cela, où est le délit. Non, je n'ai jamais lu ou vu que c'était interdit. Et pourquoi c'est interdit? Le henné n'est pas interdit. Et s'il est fait avec le sparadrap, là, quelle est la chose qui le rend interdit? Quelle est la chose qui le rend interdit? Donc la femme peut mettre le henné même sans raison. C'est une femme, elle met le même sans raison, le mohim, elle ne le montre pas aux hommes. Elle ne le montre pas aux hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, une femme a fait sortir comme ça sa main d'un rideau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu sa main, il a dit, est-ce la main d'une femme? Il a dit, si c'était d'une femme, elle aurait dû mettre le henné. Il a dit, on dirait un homme, on dirait un homme. Et le hadith se trouve dans un des livres de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Fadl. Donc s'il y a quelqu'un qui dit les autocollants, même s'ils ne contiennent pas d'âme, c'est interdit, qu'il nous montre, inshallah ta'ala, la fatwa. Fadl.
Question suivante, chère, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question à propos de ma petite sœur qui est malade depuis plus de 3 ans maintenant. Après plusieurs ruqya, ma sœur est toujours malade. Sauf que mes parents, depuis sa maladie, n'osent plus rien lui dire. Ils ont peur de sa réaction, car dès qu'elle s'énerve, elle fait une crise et elle tombe par terre, etc. Donc l'éducation de mes parents, surtout de ma mère, car mon père ne s'investit pas tellement dans la vie de ma famille, souffre de plus en plus. Maintenant, ma sœur sort par 3-4 jours et ne veut plus faire de ruqya, sachant qu'elle sait qu'elle est malade et que le djinn la menace encore et toujours. Que doit-on faire? La laisser faire ou la forcer à être correcte à la maison, etc. Sachant que plusieurs fois, elle a essayé de se jeter par la fenêtre ou de se frapper le visage avec un marteau, etc. Allah al-Musta'an. Qu'Allah guérisse nos malades. Je m'inquiète surtout pour ma mère car elle souffre beaucoup avec elle et moi j'habite loin, je ne peux pas être là souvent. Ma sœur fait la prière et elle est voyée. Et elle est voilée à Afwan, jazakumullah khairan, de nous conseiller par rapport à l'éducation qu'on peut lui donner. Tfadal cher.
Non, حوله ولا قوة إلا بالله. أي يعني لا فورس يا لا فيغ رقية، لا فورس يا لا فيغ رقية. مي maintenant يعني le père ne s'investit pas beaucoup ceci cela. C'est vraiment يعني difficile. C'est vraiment difficile. Il faudrait chaque fois que vous allez chez elle par exemple de lui faire ruqya, de lui faire ruqya, de lui faire écouter le Coran etc. Mais je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile surtout que elle maintenant يعني elle veut plus faire ruqya. Donc يعني votre comportement avec elle maintenant c'est de faire ce que vous pouvez faire. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas vous endosser quelque chose que, yani vous faire supporter quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. C'est pour ça que à chaque fois vous pouvez lui emmener quelqu'un pour la faire lui faire ruqya. Alhamdulillah, si vous ne pouvez pas, qaddara Allahu ma shafa'al. Et nous, de notre part, on fait des doigts. Que chacun fasse des doigts à cette sœur et à tous nos frères et sœurs qui sont possédés. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, on yishfiya, on yikfiya, shar had shaitan rajim. Subhanahu wa ta'ala, an yu'afiyaha, wa an yahfadha, yiftah 'alayha min 'indihi futuhat. Tafadhal.
Question suivante, cher, et ce sera la dernière pour ce soir, Inch'Allah.
Afoul Nam, je croyais que j'avais le micro. Je voulais dire une chose importante aussi que je voulais entendre. Comme a dit une personne, comme a dit une personne qui était comme ça possédée. Nam, elle a dit que j'ai fait plusieurs ruqya et ça n'a rien donné. Et quelqu'un, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a donné une nasiha. Et alhamdoulilah, depuis cette nasiha, je suis guéri. Quelle nasiha on lui a donné? Il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit, écoute, la ruqya toute seule ne suffit pas. Il lui a dit, apprends la aqida. Apprends la aqida, apprends ton dîn, et tu vas voir, bidna et ta'ala, comment ça va marcher. Et la personne a dit, elle a dit, Wallah, c'est vrai, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la aqida, à lire les livres, écouter les doulous, j'ai vite guéri. Le shaitan n'aime pas un cœur illuminé. Qui est dans les ténèbres, qui ne connaît rien de son dîn, il abuse d'elle. Mais dès qu'il voit que la personne a commencé à s'intéresser à son dîn et à apprendre, etc., il ne veut plus vivre avec elle. Il veut changer d'endroit et aller vers une personne qui est toujours loin du dîn, qui est dans les ténèbres. Donc cette sœur, là, vous pouvez aussi, comment dirais-je, yani lui venir du côté des livres. Naam, lui acheter des livres de Aqida, etc. et essayer de l'intéresser à ce qu'elle lise, à ce qu'elle lise, à ce qu'elle assiste à des cours et comme ça. Si elle commence à s'intéresser, même si elle ne guérit pas à 100%, naam, le shaitan la laissera beaucoup de temps, yani, Inch'Allah ta'ala, s'éloignera d'elle beaucoup de temps, bi'idhnillah ta'ala. Tfadlan. Attends, on dit une chose en whisper. À fond pour dérangement. Si j'ai bien compris, une femme qui met du henna sur les hommes, c'est ce qu'a dit Cheikh. Le hadith donne plutôt l'impression que si la personne qui a tendu sa main était une femme, elle aurait dû mettre du henna. Et dans ce cas, le prophète aurait vu le henna sur sa main. Wallahu alam. Je dis, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit que le henna fait partie de la zina de la main. À fond, de la zina de la main, de la zina de la femme. C'est comme la femme, elle se maquille sur le visage, hein? Elle fait aussi un genre de maquillage qui est le henna dans ses mains. Maintenant, si la femme met le henna dans sa main, elle doit couvrir ses mains. Elle doit couvrir ses mains parce que, hein, c'est de la zina pour la femme. C'est pas de la zina genre fornication, mais zina, ça veut dire parure. Ça devient de la parure pour la femme. C'est pour ça que, Inch'Allah ta'ala, elle doit cacher sa main, bi'idhnillah ta'ala. Tafadhal.
Donc, dernière question, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense et vous préserve, ya cher. Donc, c'est une question d'une sœur. Elle dit: Je suis une sœur de 17 ans qui est contrainte d'aller au lycée car mon père me menace de me mettre à la porte si j'arrête. Sachant que lorsque je vais au lycée, je suis obligé d'enlever mon djilbab. Il y a de la mixité et beaucoup d'autres choses qui font que ma foi s'affaiblit de jour en jour. S'il me vire de chez moi, je ne saurais où aller, et je suis très attaché à ma famille pour la quitter. Que me conseillez-vous? Continuer ou arrêter, sachant qu'il me reste un peu plus d'un an? Inch'Allah, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins pour le temps que vous nous accordez et pour le travail que vous faites. Tfadal cher.
Dans un cas pareil, je me base toujours sur la fatwa de Cheikh Fawzan Hafidhahullah. Quand une sœur lui a demandé, elle a dit que je vis chez mes parents et ils me déchirent le hijab et le djilbab, etc. Et je suis contrainte de sortir sans voile car je n'ai pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'il a dit, Hafidhahullah? Il a dit: tu es excusé, mais dans la rue, un maximum de ton corps. Cache le maximum de ton corps. Quand mes parents me disent par exemple, il faut pas mettre le voile. D'accord? D'accord. Mais quand je suis dans la rue, au lieu de mettre par exemple une robe qui montre, par exemple, qui m'arrive aux genoux, je peux mettre une robe qui m'arrive aux chevilles. Naam. Au lieu de montrer mes cheveux, par exemple, on me dit il faut pas mettre un foulard. Mais je peux mettre, par exemple, quelque chose, je sais pas comment ça s'appelle, qui se met sur ma tête, qui cache au moins la moitié de mes cheveux. Et comme ça, je crains Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. C'est pas parce que maintenant je peux pas mettre le djilbab que je vais m'habiller en cours. Mais je cache le maximum de ce que je peux. Cheikh Ben a dit, jusqu'à ce que, inshallah ta'ala, elle soit libre. Elle soit libre en se mariant ou bien en quittant la maison, je ne sais pas. Hein, parce qu'elle n'a pas d'autres. Il y a cette soeur qui m'a posé la question, je lui dis la même chose. Si maintenant tu es sûr qu'ils vont te virer et que, une fois virée à 17 ans, ce n'est pas une chose facile pour une fille de 17 ans qui va se trouver dans la rue, dans des appartements de je ne sais pas qui. Une fois chez une sœur, ensuite une fois la sœur ne peut plus, ensuite elle va à l'hôtel, ensuite elle finira dans la débauche, a'oudou billah. Donc le moindre mal, c'est de supporter, il reste un an ou quelque chose comme ça, de supporter, de demander à Allah Ta'ala de nous préserver jusqu'à ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala fasse une solution. Et ça s'appelle le moindre mal. Le moindre mal. Naam. Car demander à celles qui ont quitté le foyer, qu'est-ce qui leur est arrivé. Non, celles qui ont quitté le foyer, qui croyaient que c'était facile d'aller passer la nuit une fois ici, une fois là-bas, elle va dire c'est facile. C'est très difficile. C'est très difficile. Non. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et te fortifier ta une solution incessamment. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك